L'Océanie, après l'Asie, après l'Afrique, après l'Amérique. Il ne reste évidemment qu'une solution, c'est bien entendu l'Europe. Mais une Europe peut-être un peu particulière, puisqu'il s'agit de parler d'une approche déjà hors d'Occident. Alors vous allez me dire que c'est vraiment un peu spécieux, mais nous allons voir. Alors, je vous rappelle nos petites règles habituelles, mais que vous connaissez tous et toutes, puisque vous les potassez avant de venir à chaque fois. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, notre premier chapitre, en vous montrant donc l'œuvre qui, comme d'habitude, va nous permettre de pénétrer dans la séance de ce jour, et que voilà. Alors, que vous inspire l'œuvre que vous voyez ici ?
Un ange couronné.
Un ange couronné, effectivement. Donc ça, c'est pour la représentation. Alors, voilà, c'est effectivement un bas-relief. Matière.
Pierre.
Ouais. Dimension, une idée.
Assez grand.
Assez grand.
C'est
oui. Combien à peu près ?
1,50 m.
1 mètre, 1 mètre 50. Oui, vous êtes dans les clous. Hein. C'est une pièce qui fait un peu plus d'un mètre de hauteur, autour de 1,20 m. Hein. Bien. Alors, c'est en effet un bas-relief en pierre représentant un ange couronné d'un mètre 20 environ de hauteur. Maintenant, cette représentation d'un ange couronné, vous la voyez dans quel secteur, à votre avis, vers quelle culture, vers quelle période aussi peut-être, se dirige-t-on avec une œuvre telle que celle-là ?
Il faut que ça soit en Orient, puisque ce n'est pas en Occident.
Ça, je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais je vais pas vous dire.
En Arménie, par exemple.
Arménie ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Un ange arménien ?
France.
Non. France ?
Oui.
Quelque chose de français ?
Ah bah alors, c'est nord-occident.
Ce serait un nord-occident français quand même. Bon. L'Arménie, c'est assez à l'est de l'Europe, évidemment. Donc vous... Mais la Russie, ça c'est aussi une mode d'hostilité, effectivement.
Oui.
Russie, Arménie. Dernier carat, si j'ose dire. Pas d'autres enchères.
Pologne.
Pologne ou France, voilà, certains
mais
disaient France déjà.
C'est en Occident, la France.
Il me semble, mais... Et ce relief, ce bas-relief en pierre figurant un ange... À votre avis, quelle pouvait être sa fonction ? Où est-ce que vous verriez ça ?
Dans une église.
Dans une église ?
Un chapiteau, en haut de chapiteau.
Un chapiteau ?
Non, trop grand.
Non. Trop grand ?
Non, non, non.
Quelque chose en bas. Une dalle qui serait en bas d'un bâtiment ? Ouais. Oui, oui, c'est un ange couronné, effectivement. Hein. Alors, je résume. Nous avons là un bas-relief en pierre qui fait à peu près 1,20 m de haut, représentant un ange couronné qui devait servir... Alors là, les avis divergent. Hein, soit de dalle en bas d'un mur, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, soit au contraire, dans la partie supérieure d'une construction de chapiteaux. Non ? Certains d'entre vous vont du côté de la France, une France non occidentale. Bon. D'autres, qui de toute façon sont bien obligés de se cantonner en Europe, hein, vont plutôt du côté de l'Est de l'Europe, la Russie, l'Arménie, la Pologne. Est-ce que je résume bien la situation ? Est-ce que d'autres parmi vous ont des petites choses à ajouter ?
Ça ne pourrait pas être de la chapelle d'un château, enfin, je sais pas, moi, je pense à la
chapelle d'un château. Oui, vraiment un bâtiment. Un élément. Oui, quelqu'un parlait d'ailleurs d'église ou de chapelle tout à l'heure, effectivement, hein, en disant qu'on était là devant un élément provenant d'un bâtiment religieux, hein, une église, sans doute. Hein. Donc peut-être un élément venant d'une chapelle.
Il y a quelque chose dans une main, non ?
Il a une corde.
une corde au cou et quelque chose dans une main. Alors, à vrai dire, il a une main, il ne reste plus qu'une main, hein, la main gauche, la main droite, ben, sa main droite du moins, on ne sait pas trop. Ce que vous avez là, c'est en fait une sorte de natte. Hein. Vous voyez, il a deux nattes, hein, une là, qui continue ici, et une longue natte ici. Hein. D'accord ? Bien. Enfin, bien. Façon de parler. Parce que c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et la date, au fait, vous auriez un peu dit quelque chose pour la date ?
Après, oui.
800 ? Ça, c'est précis. J'aurais dit 801, mais...
1500.
Donc, il y en a pour qui c'est plutôt le haut Moyen-Âge, d'autres plutôt la fin du Moyen-Âge.
Oh non.
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 Début du Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. Hein? Bon, en tout cas, on est quelque chose. Il n'y a qu'une chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est qu'on est effectivement à l'est de l'Europe. Ça, effectivement. Hein? Pour être en Occident, difficile d'être en Occident quand même. Hein? Donc on est effectivement à l'est de l'Europe. Hein? Pologne, Russie, Arménie.
Plus au nord.
Géorgie.
Géorgie. Tout ça, c'est effectivement... Pays nordique, Byzance. Oui, mais peut-être que c'est mieux.
Mais c'est un peuple qui faisait habituellement des sculptures en pierre, ou si c'est l'exception ?
Non, c'est une. On va en voir pas mal de sculptures en pierre. On va en voir pas mal d'autres. Donc c'est pas une chose
exceptionnelle.
Hors type, si j'ose dire. Alors, est-ce que vous donnez votre langue au chat ou bien...
Oui.
Hein, je vous ai pas mal léché patougé. Hein. Alors, en fait, l'œuvre que vous voyez là est une œuvre qui vient de Turquie.
Turquie.
Nous sommes donc en Turquie.
Oui,
nous sommes, après 800, mais avant 1500, ouais. C'est-à-dire plutôt à la fin 12, début 13e siècle. Et ce que vous voyez là ne vient pas d'une église, mais du décor d'une porte qui se trouve dans une muraille, la muraille d'une ville que nous allons beaucoup explorer aujourd'hui, qui s'appelle Konya. Nous voilà donc à Konya. Alors, la figure que vous voyez est bel et bien un ange couronné, effectivement, hein. Sauf que c'est pas un ange au même sens de nos anges à nous, si j'ose dire. À votre avis, quelle pouvait être d'ailleurs l'utilité de cet ange qui ornait une porte de la cité de Konya ?
Protecteur,
absolument. Hein. C'est-à-dire cet ange est effectivement un ange protecteur. Vous pourriez donner d'autres mots qui vont un peu dans le même sens ? Un ange en effet qui empêche les mauvaises choses d'entrer, hein. Prophylactique, oui. Hein, c'est un ange protecteur, prophylactique. Par parenthèse, ce genre de figure ailée sur un arc comme ça à l'entrée d'une ville, est-ce que ça vous rappelle des choses ?
Les Assyriens.
Les Assyriens, oui.
Les Romains.
Les Romains. Hein, les Romains. Pensez à tous les arcs de triomphe antiques, hein, romains. Ben, vous avez généralement, à quel endroit des arcs de triomphe antiques ? Alors, ben, un arc de triomphe, c'est effectivement une sorte de grande entrée monumentale. Hein. Et à quel endroit est-ce qu'on trouve des figures un peu équivalentes ? Et quelles sont-elles, ces figures, d'ailleurs ? Pensez, par exemple, peut-être j'aurais dû amener une photo, mais à l'arc de Constantin, par exemple,
oui, ou
à l'arc de Titus, etc. Oui. Qu'est-ce que vous voyez sur ces arcs-là ?
Des faits de guerre.
Des
faits de guerre.
Oui, mais qui nous rapproche de ça. Des victoires. Hein. Sur les arcs antiques, pensez à tous les arcs que vous connaissez, encore une fois, hein. Orange, etc. Vous avez généralement, de chaque côté de la baie de ces arcs, dans l'espèce de triangle, parce qu'évidemment, un arc, ça a une baie à l'intérieur, et au moment où la baie devient semi-circulaire, il y a des espèces de triangles. Hein. Et bien, dans ces triangles, généralement, vous avez une victoire qui est là. Ben, là, vous avez un peu la reprise de ces victoires des arcs antiques, mais dans un arc qui n'est pas antique, mais qui est fin 12, début 13e siècle, hein, mais qui reprend cette idée des victoires, qui à la fois évoque la victoire, mais quelque part aussi protège, n'est-ce pas, accompagne. Qu'est-ce que ça vous dit d'ailleurs, ça, le fait que cet ange que vous voyez là est l'autre qui lui faisait pendant? Parce qu'en fait, il n'y a pas un ange, il y en a deux. Mmh. En fait, il y en avait deux de ces anges. Comme les victoires, décidément, sur les archantiques. Dans les archantiques, vous n'avez pas un ange d'un côté, vous n'avez pas une victoire d'un côté. Vous en avez deux. Et bien là aussi, vous aviez l'arc, et au-dessus de l'arc, dans les écoinçons, deux anges, et deux figures ailées, du même type, qui donc rappellent ces archantiques. Qu'est-ce que ça vous dit, d'ailleurs, d'autre, par rapport à... Enfin, le fait qu'on soit là, dans quelque chose qui nous rappelle cette antiquité-là?
Une continuité.
Et voilà. Une sorte de continuité. Vous savez, très souvent, on a l'impression que le monde musulman est un monde qui, se coupe. C'est le cas aujourd'hui, vous allez me dire, dans certains cas. Hein. Moins qu'on puisse dire, même. Hein. Mais ce n'est pas forcément le cas dans le passé. Hein. Par exemple, en Turquie, au XIIIe siècle, il y a au contraire une grande continuité entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est-à-dire que, on voit là... Hein, en Turquie, au milieu du Moyen-Âge, pourrait-on dire, la reprise d'un thème antique, d'un thème gréco-romain. Hein. Tout simplement parce que, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être allés en Turquie, hein, moins qu'on puisse dire, que les vestiges gréco-romains en Turquie, il y en a, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous rappelle que, entre autres détails, Troie, la ville de Troie, c'est en Turquie. Hein. Alors, hein, on est donc vraiment en Turquie, dans un lieu qui est littéralement pétri de ce qui est notre, notre tréfonds de notre histoire. Hein. Troie, après tout, c'est le grand mythe fondateur sur lequel, quelque part, on est construit. Hein. Eh bien, c'est en Turquie. On est vraiment là, dans un territoire qui est complètement pétri de cette culture antique. En voilà un exemple. D'accord ? Alors, on va un peu poursuivre notre petit travail sur Konya et sur cette période. Comme d'habitude, pour vous parler de ça, j'ai prévu une petite carte, simplement pour remettre les choses au point. Hein. Là, je vous dis simplement deux petites choses. Les deux reliefs que nous venons de voir, hein, sur lesquels on va revenir à l'instant, parce que je voudrais vous faire un peu discuter sur eux. Ils proviennent donc de Konya. Hein. Konya est au centre de l'Anatolie, hein, ici. Et ils datent de la fin 12, début 13e siècle. Il se trouve en effet qu'à partir de la fin du 11e siècle, et jusqu'au milieu du XIIIe siècle, toute la partie centrale de ce qui est aujourd'hui la Turquie, l'Asie mineure, on va dire, hein, depuis ici jusque-là, est entre les mains d'une dynastie qu'on appelle la dynastie des Seldjoukides. Hein. Alors, les Seldjoukides, c'est très compliqué. Il y en a plus à l'est, du côté de l'Iran, de la Syrie. Il y en a plus à l'ouest. C'est le cas de la Turquie. Et donc, les Seldjoukides règnent sur cette partie de la Turquie, entre la fin du XIe et le milieu du XIIIe siècle. À partir du milieu du XIIIe siècle, ils vont être gênés par des gens qu'on n'a jamais vus l'autre jour. C'est qui ? L'autre jour, on a parlé de la Chine. On a parlé, on a rappelé des Song du Sud. On a parlé de certaines personnes qui avaient mis quelques bâtons dans les roues à la dynastie des Song du Sud. C'est qui ? Les Mongols. Eh bien, les Mongols, qui vont connaître une expansion en Extrême-Orient, vont avoir aussi une expansion du côté de l'Occident, et vont mettre à bas, vers le milieu du XIIIe siècle, l'empire des Seldjoukides. Les Mongols, on les retrouve en Extrême-Orient, mais en Extrême-Occident, si j'ose dire, de l'Asie. Hein, voilà. Donc, la dynastie des Seldjoukides règne dans cette période-là. Et leur capitale, c'est donc Konya. Alors, on va s'intéresser à cette ville de Konya, essayer de voir à quoi elle ressemblait, et quelles sont les activités artistiques qui ont pu se développer là. Par parenthèse, on ira à Konya. Mais tout à l'heure également, on ira à côté de Beyşehir, qui se trouve ici. Vous verrez là pourquoi, à côté du lac. Hein, vous comprendrez. Et tout à l'heure, on fera un petit tour également du côté de Kayseri, mais vous verrez pourquoi. Pour l'instant, restons à Konya. Revenons une petite seconde sur ces deux reliefs-là. Sur le plan stylistique, qu'est-ce que vous auriez à dire? Sur le plan de la réalisation de ces reliefs, qu'est-ce qu'on pourrait souligner, indiquer, préciser?
Ce n'est pas des anges souriants, comme on a
su. Il y a du mouvement, pas grand-chose.
Alors, il y a du mouvement, oui.
Mais c'est pas...
Pas des anges souriants, c'est vrai, ils ont un côté impassible, oui.
C'est un bas-relief épais.
C'est effectivement un bas-relief épais, c'est-à-dire que c'est effectivement du bas-relief, mais il y a une dimension d'épaisseur. Et surtout, qu'est-ce qui frappe effectivement ?
Il y a du mouvement.
Alors, mouvement, oui, mais dans la technique, par rapport à ce que vous disiez, madame, là, un instant, une sorte de bas-relief épais. Moi, une chose qui me frappe beaucoup dans ce bas-relief, épais, effectivement.
Oui, il y a du relief.
Oui.
Oui, mais il n'est pas très précis.
Pas très. Qu'est-ce que vous entendez par pas très précis ou il se détache pas beaucoup ?
Les visages, les traits du visage ne sont pas marqués.
Ben, disons qu'il y a peut-être un côté assez schématique, c'est peut-être ce que vous voulez dire, non ? C'est-à-dire qu'effectivement, alors là, les photos ne sont pas forcément excellentes, hein, mais effectivement, les traits du visage, hein, ou d'ailleurs le reste, hein, c'est vraiment des éléments effectivement très, très, très schématiques, quoi. On ne peut pas dire qu'on soit là dans un art qui surfouille en quelque sorte, hein, la figuration, c'est vrai, ouais. Et puis ces reliefs assez schématiques, épais, mais ce sont des bas-reliefs, hein, qu'est-ce qu'ils ont encore comme caractéristiques, je trouve ?
Il y a des strates différentes entre les noms.
Qu'est-ce que vous entendez par strates différentes ?
Des strates, des hauteurs différentes.
Alors, vous trouvez ?
Est-ce que ça a été rapporté ?
Non, non.
On dirait qu'il s'est presque plaqué.
Ah oui, qu'on aurait plaqué l'un comme dans l'autre.
Non.
Je vois un peu ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est très curieux, je crois, dans ces bas-reliefs, qui sont des bas-reliefs assez creusés, mais assez, assez bas-reliefs quand même, c'est qu'ils sont très plats. C'est très très plat, c'est complètement aplati. Quand vous voyez, allez à Cathédrale de Chalon, hein, quand vous voyez des bas-reliefs, vous avez du volume, vous avez, ça vient, quoi. Ça bouge, si vous voulez. Hein. Là, vous avez, c'est un petit peu ce que vous disiez, madame, d'ailleurs, hein, vous avez quelque chose d'aplati, un peu comme si on avait découpé une silhouette de bois, de contreplaqué, qu'on l'avait collé sur un fond, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? On a un relief très, très aplati. Hein. C'est épais, c'est-à-dire que là, vous savez, entre la jambe de ce génie et le fond, il y a ça, hein, voilà, donc c'est creusé, mais c'est très plat. Ce qui fait que les éléments du visage, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, où les plis sont pas traités avec des hauts et des bas, hein. Ils sont traités simplement avec des lignes. Hein. Donc c'est des reliefs très très plats. Mais
est-ce que c'est dans un mur défensif ?
Oui, c'était effectivement dans un mur
peut-être
défensif.
Peut-être qu'il fallait pas trop que ça déborde.
Oui, c'est une des choses. Et puis c'est également une sorte de mode. C'est les Seljoukides. Hein. Vous avez là des pièces donc, qui datent de l'époque Seljoukide. Il se trouve que les Seljoukides travaillent le relief de cette manière. C'est une sorte de manière de faire. Hein. On verra beaucoup d'autres reliefs Seljoukides tout à fait du même genre. C'est un peu une signature. Alors, allons un petit peu plus loin et entrons dans la ville de Konya. C'est un peu comme la fois dernière. Hein. La fois dernière, on est allé à Hangzhou. Linan, l'asile provisoire, vous vous en souvenez, et on a visité cette ville et essayé de voir comment elle se composait, comment était faite cette ville de Linan, ce qui nous donnait plein d'informations sur qu'est-ce que c'est qu'une ville en Chine au Moyen-Âge. Ben là, c'est la même chose, on va regarder à quoi ressemble la ville de Konya, qu'est-ce que c'est que cette ville de Konya au Moyen-Âge. Alors, on voit le plan, ici. Qu'est-ce que vous pourriez d'abord dire sur ce plan-là ?
Une muraille.
Une muraille, effectivement.
Et un centre.
Une muraille, un centre. Alors, ce centre, pardon.
De l'eau.
Alors non, il y a pas. Il y a un peu d'eau, mais il y a pas tellement d'eau, contrairement à Linan d'ailleurs.
Pas beaucoup d'eau.
Il y a toute une partie qui paraît avoir des rues un peu fantaisistes, et l'autre qui est très orthogonale.
Voilà, il y a effectivement ici une petite partie orthogonale, là un peu aussi. Le reste est plus fantaisiste, comme vous dites. Ouais.
Mais il y a moins
d'habitation. Pardon. Alors, à votre avis, où est-ce qu'il peut y avoir un relief ? Bon, ce plan est un plan
au
schématique,
centre.
Il ne fait pas...
1, 2, 3. Au centre.
1, 2, 3. C'est-à-dire ça, c'est un relief ?
Oui.
Oui, effectivement, c'en est un. C'est-à-dire que là, vous avez une espèce de butte circulaire qui correspond à un relief. C'est quoi, d'ailleurs, ça ?
Un tumulus.
Voilà, une sorte de tumulus. Ça vous dit quelque chose, cette idée d'un tumulus ?
Alors,
ça pourrait être effectivement une sorte de sépulture, hein, on connaît ça. Acropole.
Oui.
Ça. Il y a effectivement, alors c'est plus grand que ça en a l'air, il y a quand même quelques bâtiments, on va les visiter. Hein. À quoi ça peut vous faire penser d'autre Alors, oui, voilà, c'est plutôt effectivement ça. C'est-à-dire que, mais à l'oriental. Hein. Vous savez que très souvent, les villes d'Orient ont à l'intérieur d'elle-même ce qu'on appelle un tépé, c'est-à-dire une butte, une motte, hein, qui correspond à l'origine même de la ville. Hein. Là, par exemple, les éléments que vous avez remontent, que l'on arrive à retrouver dans ces parties de la ville, remontent au néolithique, vous voyez, des périodes extrêmement anciennes. C'est des parties où les villes se sont stratifiées, si vous voulez, avec des couches différentes. Ça fait une sorte de gros dôme. Hein. Eh bien, ça, c'est le tépé de Konya, c'est-à-dire l'espèce de colline centrale de Konya. Hein. À votre avis, cette colline centrale que vous voyez là, elle se caractérise par quoi à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire au fin 12, début 13e siècle, grosso modo?
Une première enceinte.
Oui, il y a effectivement une enceinte autour. Et donc, dans cette période, fin 12, début 13e siècle, cette partie centrale de la ville, qui forme une sorte de grosse butte, qui est entourée d'une enceinte, elle correspondait à quoi? Oui, on appelle ça aussi comment? Ces forteresses qui sont à l'intérieur d'une ville. Oui, alors pour des périodes antiques, effectivement. Pour des périodes plus récentes, on a le même mot en Occident. Voilà, une citadelle. Tiens, là, vous avez la citadelle, hein, et autour, vous avez la ville avec ses remparts. On va un peu visiter cette ville, mais qu'est-ce qu'on peut trouver, à votre avis, au-delà de, j'allais dire, des maisons qui forment le tissu urbain, dont je vous dirais d'ailleurs d'emblée qu'on les connaît très mal. Hein. Les maisons qui formaient le tissu urbain de Konya au XIIe-XIIIe siècle, on les connaît quasiment pas, donc on n'ira pas grand-chose là-dessus. On a remarqué que le tissu urbain pouvait être parfois autonormé, quelquefois très mouvementé. Le tissu urbain que vous avez là est en fait le tissu urbain de la cité actuelle. Hein. Donc il ne correspond pas forcément au tissu urbain de la cité médiévale, encore qu'on peut penser qu'il y a eu certaines continuités. Bon. Par contre, ce qu'on va essayer de voir, c'est quels sont les monuments types que l'on trouve dans une ville au Moyen-Orient, à cette période, fin 12, 13e siècle. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une ville comme Konya, comme monument, j'allais dire un peu obligatoire, à cette période?
Mosquée. Ou des églises transformées en mosquées.
Voir des églises transformées en mosquées.
Une école.
Médersa, c'est quoi?
Une école,
ce qu'on appelle une école coranique, souvent, oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Des tombeaux.
Le château du sultan.
Le château du sultan, le palais du sultan, effectivement. Est-ce qu'on peut trouver d'autres encore, peut-être?
Des réserves.
Des termes. Comment est-ce qu'on appelle ça, d'ailleurs, au Moyen-Orient? Hammam.
Il y a un truc là en rond, comme un croissant.
Ça ouais. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis posé la même question.
Je me disais, c'est peut-être voilà. Un Hammam.
Voilà. Bien. Donc, effectivement, vous avez la cité, toute une série d'éléments qui, j'allais dire, composent une ville au Moyen-Orient à la fin du Moyen-Âge. Bien. Alors, maintenant qu'on sait, en gros, quels sont les monuments un peu obligés, typologiques, que l'on trouve dans une ville comme Konya à la fin du Moyen-Âge, eh bien, je vais vous montrer quelques monuments et on va essayer de savoir de quoi il s'agit. Des monuments datant de cette période, de l'époque seldjoukide, donc 12-13e siècle. D'accord? Bien. Alors allons-y. Prêt?
Oh, c'est joli.
Mosquée.
Re-mosquée. Alors là, je dois vous dire que ça, c'est le détail de ça. C'est-à-dire que ce que vous voyez là est un voile de béton moderne hein, qui a été mis là pour protéger ce qu'il y a en dessous, dont vous voyez ici les restes.
C'est un toit.
Un minaret.
Un minaret, les restes d'un minaret.
Non. Un mur de forteresse.
Tombeau.
Un mur de forteresse.
De palais.
Ah, de palais ou de forteresse, c'est peut-être pas pareil. Je sais pas. Bon, en tout cas, les restes soit d'un minaret, vous disiez, ou d'une forteresse, ou d'un tombeau, ou d'un palais. Mmh. Ok.
Voilà
le rond central. Le rond
central. Oui, ouais, ça c'est maintenant.
Tout à fait. Bien, vous retrouvez là notre petit parapluie, vous savez. Hein. Mmh. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Hein. Autrement dit, ce truc-là se trouve sur le tépé central, d'accord?
Une mosquée.
Eh bien, il y en a des mosquées. Hein.
Ben encore une...
Chapiteau.
Chapiteau. Pourquoi je vous l'ai mis là?
Je sais pas.
C'est un oiseau.
Un cadavre. Ah, ça ressemble à ce qu'on a vu avant.
Comme technique.
Comme technique, mais
comme
c'est un cadavre.
Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avant. Autrement dit, c'est quoi?
Un
bas-relief.
Un cadavre avec une tête.
C'est
une tête humaine.
On
dirait un canard à tête humaine.
Un canard à tête humaine.
Ouais.
Bon. Donc, on va revoir après, hein, mais on fait un premier décryptage. Mosquée. Tombeau, mosquée.
Non, c'est pas une mosquée. C'est
un puits. Médersa.
Ah ben voilà.
Ah oui, mais c'est typique ça.
Vous reconnaissez encore, oui, c'est moi, on tombe beaucoup.
Oui, mais, le
mais c'est derrière, là, qu'est-ce qu'on voit? Un palais?
Non, une école.
Une école? Bon. On révise. Mosquée. Mosquée.
Oui.
Rempart, minaret, mur de palais ou de murat ou de forteresse. D'accord? Le TP central. Mosquée. Un chapiteau. Un peu comme ce que l'on a vu tout à l'heure. Hein. Même technique, vous disiez. Et qui présente un canard à tête humaine. Une mosquée. Tombeau, je crois, c'est ça?
Un puits, moi, je dirais.
Ah, un puits.
Dans une
médersa. Médersa, puits, tombeau.
Pourquoi pas?
Bon. Ça peut être un puits près d'un tombeau dans une médersa.
Ça bon. Un canard en sérail.
Et là... Vous disiez une école coranique, je crois. Hein. Voilà. Bien. Eh bien, on va reprendre un petit peu tout ça. Bien. Donc ça, une mosquée. Qu'est-ce qui fait, oui, qu'est-ce qui fait que ceci semble bien être une mosquée? Le minaret. Oui. Hein, on voit effectivement à droite un minaret, donc ça semble bien être une mosquée. Qu'est-ce qui caractériserait pour vous cet élément, d'abord, c'est quoi dans une mosquée, ça?
C'est l'entrée.
C'est l'entrée. Hein, c'est l'entrée de la mosquée. Et qu'est-ce que vous verriez comme élément caractéristique hein, pour signaler un peu, pour décrire cette entrée de cette mosquée?
La partie évidée, creusée avec des niches. Ça, c'est typique des...
À quel endroit?
En dessous de la porte.
D'accord.
Triangle avec creusé.
Ça,
c'est typique de cette dynastie.
Tout à fait. Hein. Vous avez là, effectivement, quelque chose qui est très, très typique de ce que l'on trouve très volontiers, c'est les Seldjoukides, effectivement. Cette espèce d'élément triangulaire au-dessus de la porte, avec ces... Vous savez ce qu'on appelle ça? Ces choses... Pardon?
Des arcatures?
Alors... ça, on pourrait dire que c'est une arcature, si on veut. Là, on voit des espèces de choses qui descendent, les unes à côté des autres. Pardon?
C'est en bois, ça, non?
Non.
C'est en quelle matière?
En bois.
En pierre. C'est de la pierre.
Ah, c'est de la pierre.
Comment est-ce qu'on appelle ça?
Un nid d'abeille.
Pardon?
C'est pas les nids d'abeille?
Quelquefois, on peut appeler ça comme ça. Mais il y a vraiment soit un nom bien occidental, soit le nom... vraiment ad hoc, quoi, enfin. Voilà, on appelle ça souvent des stalactites, parce que c'est en effet, ça tombe, quoi. Hein. Les stalactites, elles tombent, les stalagmites, elles montent, là, ça tombe, donc c'est des stalactites. Le mot ad hoc, c'est moucarnas. Hein. Et donc, on a là, effectivement, quelque chose qui est tout à fait typique de ce que l'on trouve très souvent chez les Seldjoukides, c'est une espèce de triangle avec stalactites, avec moucarnas. Ça, c'est effectivement quelque chose que l'on va beaucoup trouver. Qu'est-ce que vous voyez encore de caractéristique dans cette façade de mosquée?
Quatre ouvertures.
Ouvertures. Alors, il y a évidemment des mosaïques. Ces mosaïques sont faites en quoi?
En terre vernissée.
En terre vernissée, glacurée, effectivement. Mais cette terre vernissée, elle est mise en place comment? Enfin, mise en œuvre comment?
Avec
Pardon ? Alors, c'est très géométrique, mais vous prenez de la terre comme ça, puis pouf, vous la faites une question de façade.
Non, 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 non. Pas avant.
C'est préparé.
Oui, mosaïque, mais faite à partir de quoi ? Voilà, des sortes de briques ou de carreaux, effectivement, hein, en terre vernissée, glaçurée, effectivement. Hein. Alors, qu'est-ce qui est fait de la sorte, ici ? Oui, ces éléments-là, effectivement. Hein. Également le bleu qu'on voit en dessous, hein, dans les fenêtres qu'il y a là. Hein. Vous voyez autre chose ?
Comme caractéristique de bâtiment, il y a aussi cet arc qui est un peu gothique, si je puis dire.
Ça ?
Oui, ouais, c'est avec un légèrement pointu.
Oui, oui. Par parenthèse, ce que vous aviez là, hein, on le retrouve, vous voyez, dans les deux baies latérales. Hein. C'est vraiment quelque chose, un poncif qu'on trouve très très souvent, effectivement. Hein. Bah, il y a quand même le minaret. Bon, on le voit pas trop. Il est vrai qu'il il a été, vous allez le voir, un peu raboté. Hein. Mais voilà, mais le minaret, il est fait également en quoi ?
Briques.
En briques. Alors, il y a des briques, puis des briques glaçurées. Hein. Voilà.
Il est cannelé ?
Oui, c'est un minaret cannelé, effectivement. Et le reste de cette porte est fait en quoi ? Pardon ?
Pierre,
c'est de la pierre, effectivement. Hein. Donc vous avez une porte en pierre, hein, c'est du costaud, c'est du solide, hein, mais avec des éléments rapportés en terre cuite, enfin en briques de terre cuite glaçurée. Hein, vous en voyez là, le minaret, ou ces décors, mais qui sont rapportés sur la pierre. Hein. Très bien. Il y a peut-être encore un élément que vous n'avez pas indiqué, qui est assez caractéristique de ce qu'on trouve volontiers à l'époque seldjoukide. Hein. Vous aviez bien parlé de ce motif que l'on trouve là et là, de ces briques émaillées qui ornent la façade, du fait qu'on est en pierre, hein, voilà. Pardon ? Oui, des bas-reliefs. Vous parlez de ça ? Ça ? Alors, effectivement, c'est très orné. Hein. En fait, tout ça est sculpté, hein, orné de bas-relief, là aussi en bas. Moi, je vois bien, vous, peut-être moins bien dans le fond, mais tout ça est évidemment très, très sculpté, effectivement. Hein. Et puis, il y a un petit élément
qu'est-ce
encore.
Qu'est-ce que c'est que ces trucs ronds qui prend éminent ?
Ah oui, c'est très marrant, ça.
Il y en a quatre.
Alors, ça, on vous a très, très souvent.
Et puis, il y en a encore en haut.
Oui, oui, absolument. Il y en a là. Et là. Ouais, ça, c'est des motifs décoratifs qu'on trouve très, très souvent. Or, ça n'est pas des gargouilles, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est des espèces de cabochons. Ça se voit très, très souvent sur les monuments seldjoukides. Je crois qu'on en verra d'autres, d'ailleurs. Oui, il y a une chose aussi, c'est ça. Vous avez vu ça ?
Ah oui, l'alternance.
Ouais. C'est fait comment, ça ?
Comme un tournu.
Comme un tournu. Comme un tournu, exactement. Hein. Pardon, vous le disiez, madame ?
Buren n'a rien inventé.
Mais absolument. Hein. Donc, vous avez là quelque chose où on voit... Alors, simplement, c'est plus... comment vous dire ? Il y a des formes. Hein. Et ça, c'est fait en quelle matière ?
Pierre.
C'est des pierres.
Oui, pierre. D'ailleurs, les pierres de la façade, et notamment là, c'est quoi comme pierre ?
Du marbre.
Hein, du marbre. Voilà. Donc on a là une façade de mosquée tout à fait caractéristique de ce que l'on trouve volontiers chez les Seldjoukides, qu'on appelle d'ailleurs ces Seldjoukides, parce que je vous dis qu'il y avait plusieurs dynasties de Seldjoukides, plusieurs empires Seldjoukides à la fin du Moyen-Âge. Hein. Eux, les Seldjoukides d'Asie Mineure, on les appelle les Seldjoukides de Roum, c'est-à-dire les Seldjoukides de Rome. Hein. Les Seldjoukides de Roum, ou de Rome, si vous préférez, sont ceux qui ont pris la place de ce qui était autrefois une partie de l'Empire romain. D'ailleurs, Byzance, c'est pas loin, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on appelle ces Seldjoukides occidentaux les Seldjoukides de Rome. Voilà. Et là, c'est donc la mosquée Saibata. En turc, mosquée se dit Cami, C-A-M-I. Hein. Voilà. En fait, le C se prononce Ch, donc c'est la Saibata Cami. Alors, ça, nous disions que c'était une mosquée. Sur.
Non.
Eh ben non. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir que l'on a déjà peut-être regardé ? On retrouve des éléments équivalents, par exemple. Voilà, les stalactites, les nombres carcasses. Hein. On est là vraiment dans la même idée que précédemment. Qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Qu'est-ce qu'on trouve encore d'autre ? Les cabochons, effectivement, vous les voyez là, absolument.
L'alternance,
hein, on voit d'ailleurs ça là, on voit ça là aussi, absolument, une sorte de mosaïque de marbre.
Qui est pas tout à fait rond, qui est un peu...
Oui, cette sorte d'arc brisé, on a vu des choses équivalentes tout à l'heure, absolument, oui.
Mais c'est dôme.
Alors, il y a un dôme, effectivement.
Il y a un dôme, il y a une mosquée.
Tout ça est très sculpté, hein, vous le voyez aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire dire que, a priori, c'est peut-être pas une mosquée ? Il n'y a pas de minaret. Alors, il peut avoir été détruit. Hein. Dans la mosquée Saïd Pata, le minaret a été en partie détruit. Il reste un bout. Bon. Mais là, il y en a peut-être eu un qui a disparu. Donc, ça, voilà. Donc, mais c'est vrai, le fait qu'il n'y ait pas de minaret donne quand même une petite idée que ça peut ne pas être une mosquée. Si ce n'est pas une mosquée, qu'est-ce que ça peut être ? Une ?
Un
hammam. Une école, un hammam. Oui. Un tombeau, ça pourrait être effectivement tout ça. Hein. Vous pencheriez plutôt vers quoi ? École, tombeau, hammam ?
Mais il y avait les derviches. Hammam ? Il fallait bien plutôt.
Plutôt hammam ? Ça emporte l'adhésion, le hammam ? Ah, école ?
Oui, l'école.
Alors, c'est une école. Hein. C'est une. Alors, on peut dire médrasa, madrasa. Enfin, il y a plusieurs manières de dire. Hein. En turc, c'est madrasa. Bon, voilà, donc c'est une madrasa. Il est vrai quand même que c'est assez décoré. Les hammams, dans les hammams, il y a pas mal de coupoles comme ça, mais il y en a généralement plusieurs. Hein. Enfin, il y en a une vingtaine. Hein. Ça peut être assez joli, mais ça n'a peut-être pas quand même cette surcharge décorative que vous voyez également là. Hein. Ces écoles sont des collèges universitaires. On les appelle plus collèges universitaires aujourd'hui qu'écoles coraniques. Parce que ce n'est pas simplement des lieux où on étudie de manière pure et dure le Coran. Hein. C'est des lieux où on étudie. Alors, le Coran fait partie de l'étude, mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, c'est un lieu d'école. C'est une sorte de collège universitaire. Celle-là, cette école-là, c'est la madrasa Karatay, qui est donc une des madrasas de Konya et qui date de l'époque Seljouki. Et ça... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pardon ? C'est assez épais, oui. C'est fait en quoi ? En briques. Effectivement, c'est de la brique. C'est pour ça qu'on l'a mis sous ce parapluie. D'abord, parce qu'il ne restait plus grand-chose. Mais si on n'avait pas mis le parapluie, il ne resterait sans doute plus rien. Qu'est-ce que ça peut être que cette chose ? C'est effectivement un espèce d'angle de construction. Vous voyez un peu ces décors qui sont ici ? Voilà, c'est des... On retrouve des stalactites, des moucarnasses ici. Hein. À votre avis, ce morceau pouvait appartenir à quoi ?
Un palais.
Qu'est-ce qui peut d'ailleurs mettre sur la voie du fait qu'il s'agit d'un morceau de palais ? Alors, décoration, évidemment, c'est décoré. Bon. Mais on a vu qu'il y avait des madrasas décorées, des mosquées décorées.
Peut-être qu'il y avait une grosse importance historique.
C'est vrai que c'est important parce que c'est notamment dans ce palais qu'a vécu le grand sultan Seljoukide, hein, qui s'appelle Alaeddin, et qui a vécu dans ce palais. Donc,
c'est une tour, c'est un angle.
Alors, c'est effectivement un angle. Hein, c'est effectivement un angle du bâtiment. On appelle ça le kiosque d'Alaeddin. Hein. Mais c'est un morceau du palais des sultans Seljoukides, parmi lesquels Alaeddin, effectivement. Mais qu'est-ce qui peut nous faire comprendre qu'il s'agit vraiment d'un morceau de palais et pas de mosquée ou de madrasa ? Quelle est la grosse différence, finalement ? Au-delà des décors, peut-être, quelle est la grosse différence entre ce que vous voyez là, et qui est très fragmentaire, hein, et la mosquée qu'on a vue ou la madrasa qu'on a vue ? La technique de construction. Là, c'est quoi ? C'est la brique. Alors que la mosquée de Madrasa qu'on a vue, c'est quoi ?
La pierre.
Hein. Ça, c'est une différence considérable. Hein. Là, vous avez un bout de palais en briques dont il ne reste que des lambeaux, alors qu'on a vu une madrasa et une mosquée en pierre, en marbre, vraiment, qui tiennent le coup. Quoi. Pourquoi ? Et pour quelle raison ? Moi, je sais pas, je suis un sultan, je me fais construire un palais, je mets du marbre, etc. Enfin, je sais pas, quelque chose qui dure, quoi.
Pas la même période. Oui, plus ancienne.
Plus ancienne. Peut-être. Tout ça date de l'époque Seljoukide. Hein. Donc ça y compris. Ça, c'est fin 12, début 13. Donc c'est pas ça. Pourquoi une telle différence de matériaux ? Pourquoi la mosquée qu'on a vue, la madrasa qu'on a vue, sont en bonne pierre, bien dure, du marbre qui tient, et le palais en vulgaire brique ? C'est décoré, d'accord, mais enfin...
Oui, mais Allah est beaucoup plus grand.
Ah, voilà. Exactement. C'est ça. Allah est grand. C'est-à-dire que la mosquée ou la madrassa, le lieu de la prière et de la connaissance, ça, ça doit rester. Le palais, c'est jamais qu'une puissance temporelle. Donc, le palais n'a pas vocation à demeurer. C'est-à-dire que le sultan, il a beau être sultan, il n'est que sultan. Alors, un palais dans le domaine islamique, ça n'a pas besoin de se pérenniser, si vous voulez. Ça peut être fait en vue galbrique. Ils font à l'eau, etc., ben, c'est pas grave. Par contre, ce serait beaucoup plus grave si la mosquée, elle, fondait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a vraiment cette grande différence que l'on voit de manière caricaturale, presque, hein, dans le monde sédjoukide, de mosquées en dû, etc., et de palais. Hein. On est là devant le palais du souverain de l'Empire sédjoukide, qui, lui, se fait construire un palais en briques. Parce que ben, le palais du prince est, n'a pas, si vous voulez, la vénérabilité de la mosquée. Voilà. On l'appelle donc le kiosque d'Alaï el-Eddin, mais c'est le vestige du palais des sultans. Bon, ça, vous aviez trouvé, hein. Facile. Donc ça, c'est quoi ? C'est le TP. Hein, c'est le TP. Par parenthèse, le palais d'Alaï el-Eddin, dont il y a ce petit morceau-là, s'étendait sans doute complètement par là. Hein. Voilà. Enfin, il ne reste vraiment plus grand-chose. C'est bel et bien un angle du palais. Et voilà donc le TP central. Et ça.
Il y a une mosquée, mais il y a aussi un minaret.
Bah, une mosquée à un minaret, donc c'est bien que. Hein. Sauf que c'est pas une mosquée.
Derrière. Là.
Enfin, c'est pas qu'une mosquée.
Oui, il y a peut-être une étoile derrière.
Voilà, c'est-à-dire vous avez là une petite mosquée, toute mignonne, avec son petit dôme, et là vous avez.
L'école.
Une école, une madrassa. Donc vous avez la madrassa et l'école côte à côte, et la mosquée, pardon, côte à côte. Hein. Voilà. Ça, c'est la madrassa Inche Minare. Hein. Minaret, ça veut dire minaret. Inche, je crois, veut dire en turc petit frêle, parce que c'est un minaret très haut, qui s'est d'ailleurs en partie tombé, hein, et très fin. Hein. Donc c'était un Inche Minare, un minaret très, très frêle, quoi. Hein. Voilà, tellement frêle qu'il n'a pas survécu. Voilà, donc ça, c'est une autre façade d'une école coranique avec une petite mosquée à côté. Ça. Donc, on a dit que c'était quoi, ça ? Chapiteau. Vous êtes sûr de ça ?
Non.
Moi, pas trop.
Comme les autres.
Un quoi ?
Un siège.
Un siège ? Non plus. Ouais. Alors, c'est effectivement comme les autres. C'est-à-dire que... Rappelez ce que vous avez vu au départ.
Comme les anges.
Hein. Voilà, comme les anges. Hein, on a le même type de relief très plat. C'est vraiment la marque seldjoukide. Hein. Pardon ? Un vase ? Non, pas un vase. Alors ça, c'est gros. Hein. C'est très lourd, d'ailleurs, hein, je peux vous le dire. C'est à peu près c'est à cette taille-là. Hein. À peu près. Hein. Voyez la forme que ça a. Un
c'est
peu
plus
courbe.
En bas, oui,
ça peut vous faire penser à quoi ?
Le bord d'une
fontaine. Alors, pas d'une fontaine.
D'un puits.
Pas d'un puits.
D'un bassin.
Pas d'un bassin.
Il n'y a pas d'eau.
Il n'y a pas d'eau. Enfin, sauf quand il pleut.
Une sorte d'hôtel.
Pas d'hôtel.
Quelque chose où on mettait des choses dedans. C'est tout derrière, non ?
Non, c'est tout plat. Plat au-dessus, plat, enfin plat sur les autres côtés.
C'est tout plat.
Tout plat.
Une table.
Pas une table.
C'était à l'intérieur ou à l'extérieur ?
C'était à l'extérieur. Bord de niche. Vous entendez quoi par bord de niche ?
Ben, quand on voit la façade des mosquées, il y a des niches.
Oui. Donc quelque chose qui serait un des éléments de bordure. On appelle ça comment, d'ailleurs, ces éléments qui sont au bord des baies ? Pardon ? Alors, balcon, c'est vraiment ce qui est, ce qu'on a tous chez nous, si je veux dire, un truc qui avance au pied d'une fenêtre. Là, ce que vous dites plutôt, je crois, c'est un élément, quand il y a une niche ou une baie, hein, vous avez des éléments qui forment le bord de la baie. On appelait ça comment ?
Ça correspond à des claveaux.
Voilà, des claveaux. Ben, ce que vous avez là, c'est un claveau. Vous savez, quand vous avez une grande porte, et ben, le dessus de la porte est fait avec des claveaux, c'est-à-dire des pierres les unes à côté des autres. Ben, ça, c'est un claveau, c'est pour ça que c'est un peu arrondi, hein, parce que c'était une grande porte et plein de claveaux. Donc vous aviez plein de claveaux avec à chaque fois des représentations. Hein. Ça, c'est comme les deux anges de tout à l'heure, ça fait partie du décor d'une porte. Hein. Sauf que les deux anges, ils étaient dans les écoinçons au-dessus de la porte elle-même, Là, c'est les claveaux de la porte elle-même qui étaient ornés de... Voilà, une sorte d'arc, hein, qui était orné de toute une série de figures. Et là, cette figure, c'est quoi?
C'est quand même une tête humaine.
Oui. Alors, c'est effectivement un oiseau avec une tête humaine. Hein. C'est quoi, un oiseau avec une tête humaine? On rappelle ça comment?
Une chimère.
Alors, ça peut être une chimère. Chimère est un mot qui peut être un mot générique, hein, qui, effectivement, évoque des animaux hybrides. Hein. Alors, un sphinx, c'est différent. Phénix, c'est différent aussi. Griffon, c'est lion et aigle. Ce genre d'animal... alors voilà, on sirène. Dans l'Antiquité, les sirènes sont des oiseaux-femmes, des femmes-oiseaux. Rappelez-vous Ulysse, hein, les sirènes sont des femmes-oiseaux. C'est plus tard, mais en Occident et plutôt dans le Nord, que les sirènes vont devenir des femmes-poissons. Hein. Mais la sirène gréco-romaine, c'est une femme-oiseau. Hein. Et il se trouve que dans l'Antiquité, il y a également des femmes-oiseaux, des oiseaux-femmes, mais qui ont, elles, parce que les sirènes antiques, elles ont plutôt carrément la totalité du corps, il n'y a que la partie inférieure qui est oiseau. Hein. Là, il n'y a que la tête. Eh bien, dans l'Antiquité, les oiseaux à tête féminine, ce sont des harpies. Hein. Ça, c'est une harpie. C'est une harpie. Pourquoi une harpie comme ça sur le bord d'une porte de la muraille de Konya?
Récupération.
Alors, ça pourrait être une récupération, mais non, parce que ça date du XIIIe, c'est Seljoukide. Okay. Donc ça s'inspire, comme d'habitude, hein, comme nos anges de tout à l'heure, ça s'inspire de l'Antiquité. Tout à l'heure, c'était des victoires antiques, là, ça s'inspire d'un autre thème antique. Mais pourquoi une harpie à l'entrée, comme ça?
C'est méchant.
Voilà, la harpie, c'est pas très sympa, une harpie.
Les femmes étaient interdites d'aller à l'école.
C'était pas à l'entrée de l'école, c'est à l'entrée dans les murailles de la ville. Hein.
Donc c'est défense.
Voilà, c'est toujours la même idée de protection, de défense. Hein. C'est nos diables à l'extérieur des cathédrales. Hein. C'est quelque chose, c'est des êtres malfaisants, mais qui quelque part protègent. Hein. Quand on a une harpie, les mauvais esprits n'ont pas intérêt à entrer dans la ville. Hein. Ils auront à qui avoir affaire. Hein. Voilà notre petite harpie. Et ça. C'est l'intérieur. L'intérieur de... L'intérieur d'une mosquée. Mmh. Non.
C'est
à ciel
ouvert.
Il y a un bassin. C'est à ciel ouvert.
C'est un palais.
Dont le toit est tombé.
Un palais dont le toit est tombé. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un toit ou pas de toit avant?
C'est un genre de patio.
Voilà, c'est un genre de patio. En fait, il n'y avait pas de toit. C'était comme ça. C'était une sorte de cour intérieure.
Est-ce que ce sont des bougies?
Ça?
Oui.
Non, c'est quoi ça? C'est un musée aujourd'hui, hein, ce lieu.
On dirait des gens, mais... On dirait des personnes.
C'est ce que c'est? Pardon? Des stèles de quoi? De tombes. En Turquie, notamment à l'époque ottomane, les tombeaux, surtout des dignitaires, sont marqués comme ça, des stèles verticales, au-dessus duquel il y a une coiffe sculptée. Hein. Donc en fait, puisque c'est un musée aujourd'hui, on a rassemblé là toute une série de stèles anciennes. Alors ça, c'était quoi? Donc en fait, pas une mosquée. Que ça pouvait être? Encore une école. On est encore dans une madrasa. Encore une de ces madrasas dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est la madrasa Sirchen. Non, Sirchen, à chaque fois.
Le toit a été entièrement refait.
Vous lire le toit à droite, à gauche et dans le fond.
Au fond.
Oui, largement. Oui. Oui, oui.
Moi, je vois un arbre.
Un arbre.
Au fond. La partie noire au fond.
Oui, c'est un arbre. C'est derrière.
C'est
décoratif. C'est le ciel. C'est un nuage.
Là.
Non, là-haut.
Non, là, c'est le ciel. Bleu. Là, c'est le nuage.
C'est un nuage.
Ah, voilà.
Un gros nuage d'orage.
Gros nuage d'orage, oui.
Ah, d'accord.
Et ça. Tout à l'heure, j'ai entendu un mot qui correspondait à la réalité, d'ailleurs. Alors, vous avez parlé d'un puits. Non. D'un tombeau, non.
Ça fait penser, moi, à la Mecque, à la pierre carrée.
Oui, ça fait penser à la Kaaba, oui. Mais c'est pas la Kaaba.
Est-ce que les chariots ont à voir...
Oui.
C'est une construction...
Oui, de manière un peu folklorique, mais oui.
C'est un caravansérail.
C'est un caravansérail. C'est ce que c'est que les caravansérails. C'est les... Voilà. Hein. Sarai, c'est le palais. Et caravane, c'est la caravane. Donc c'est le palais des caravanes. Hein, qu'on appelle en turc les ham. C'est un ham. Hein. C'est donc un caravansérail. Hein, effectivement. Alors là, ça se trouve pas à Konya, mais pas très très loin de Konya, entre Konya et Kayseri, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, c'est le sultanat d'Iran. Hein. On reviendra sur les caravansérails. Et ça... On est près de notre bout du pauvre palais d'Alé Eddin dont il ne reste pas grand-chose. Mais là, moyennement derrière, il en reste vraiment quelque chose. C'est quoi ? C'est une mosquée. Voilà, c'est l'Alé Eddin Jami. Hein, c'est la mosquée d'Alé Eddin.
Le toit pointu est très particulier à cette ville.
Très. Alors, on va y revenir d'ailleurs. Parce que maintenant qu'on a vu un certain nombre de monuments caractéristiques d'une ville du Proche-Orient à l'époque médiévale, Madrassa... palais, mosquée, on a vu qu'il y avait des caravansérails, on a parlé des remparts, on a commencé à mailler notre ville, mais c'est pas pour ça qu'on a en tête, je dirais, ce que c'est précisément qu'une mosquée. C'est là où je vous propose qu'on regarde d'un petit peu plus près une mosquée, une madrassa, enfin qu'on voit un peu comment ça fonctionne. Parce que là, on les a vus un peu de loin. Regardons ça d'un peu plus près. Par exemple, la mosquée d'Alé Eddin, la voilà. Hein, donc c'est une mosquée qui, encore une fois... globalement, date des 12-13e siècles. Hein. Voilà, on est là devant la porte. Qu'est-ce que vous remarquez, d'ailleurs ? Voilà la porte d'entrée, la voilà d'un peu plus près, de la mosquée Alé Eddin. Qu'est-ce que vous remarquez ?
Oh, les claveaux sont superbes et extraordinaires, même.
Ah oui, c'est très beau. Hein. Et ça rappelle quoi ?
Ce qu'on a déjà vu.
Parce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vous avez là une porte faite avec une mosaïque de marbre blanc et gris, comme ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vous vous rappelez de la madrassa Karataï, par exemple,
magnifique,
hein,
avec
les trois bandes, de la mosquée Saïpata. Vous aviez exactement là, le même genre de choses. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Voilà le plan de la mosquée en question. C'est-à-dire que là, la porte par laquelle on vient d'entrer, c'est pas celle-là, c'est celle-là. On vient d'entrer là. Donc, voilà la mosquée. Qu'est-ce que vous voyez de quoi en plan est-elle composée, cette mosquée ?
Il y a les ablutions là, qui sont dans les deux ronds.
Donc les deux ronds, ce seraient des bassins ablutions.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Donc on vient d'entrer. Hein.
Alors sur les colonnes.
Je vous rappelle, vous avez tous en tête la vue aérienne.
Oui, oui.
D'accord ?
Oui.
Donc il y a effectivement une cour.
Les points.
Ça c'est très important, hein. Il y a une cour.
Il y a des colonnes. Il y a des rangées de colonnes.
Des colonnes. Beaucoup de colonnes. Hein.
Beaucoup de colonnes.
Parce que c'est carré.
Beaucoup de colonnes. Parce que c'est carré.
C'est la salle de prière.
La salle de prière. Donc on aurait là la salle de prière.
Mais là,
ouais.
Oui, mais alors...
tout ça, là, hein.
Trucs,
non.
Là aussi.
Non. Parce que où est le lieu du prédicateur et de ce qui tournait vers l'Orient? Où est-ce? Le mirabe.
Ouais. Alors, il serait où ?
Le petit truc en pointillé, là-bas.
Qu'est-ce que c'est que ce rond-là ?
Le mirabe.
Ça, c'est quoi, ça ?
C'est là où il... Le mirabe.
Le mirabe. Le mirabe, c'est le gros rond que vous voyez là.
Non, non. Ah, c'est... Oh non, c'est le petit.
C'est le petit.
Le petit. Mais qui est tangent.
Là.
Voilà.
Ça, c'est le mirabe.
Oui, mais il est au-dessus de ce qu'on voit.
Autre bandit.
Alors, il y a une coupole.
Voilà, il y en a
une coupole, des piliers carrés, cruciformes,
oui. Voilà.
Et des colonnes, et puis alors, avec ce qui est en pointillé, sont les arcs, c'est simulant les arcs entre les colonnes.
C'est ça. C'est-à-dire, vous avez effectivement une cour, hein, on vient d'en parler, une cour, il y a ces deux gros cercles dont vous parliez, a priori peut-être, des bassins à ablution, et là, il y a la mosquée, c'est-à-dire la salle de prière, qui est évidemment tout en longueur. Hein. C'est assez étrange, ça.
On entre par où dans cette salle de prière ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Moi, j'étais entré par là, mais... non, par là, pardon, par ici. Là, il y a une entrée. En fait, il y a une entrée latérale. Mais je pense qu'il y a des entrées par là. Tout n'est pas forcément, d'ailleurs... mais l'entrée... Enfin, moi, j'étais entré par là. Voilà. Pourquoi tant de colonnes ? Il y en a des colonnes. Hein. Or, dans toutes les mosquées, vous n'avez pas des colonnes.
Oui, mais la surface est immense. Il faut... Et s'il y a un toit, il faut bien des supports de toit.
C'est nécessaire. Et mais pourquoi à ce point, quand même ?
C'est Séville, il y en a beaucoup.
Pardon ?
C'est pas Séville, c'est ça.
Cordoue. Cordoue. Mais justement, Cordoue, c'est la même raison.
Oui, il y en a beaucoup.
Décoration.
Oui, c'est décoratif. Mais il y a une raison bien pratique qui fait qu'on a mis des colonnes.
Par sécurité,
Ça soutient le...
Alors, ça pourrait être une chose, mais c'est une autre raison.
Ça peut soutenir la voûte.
Alors, bien sûr, les colonnes, elles soutiennent ce qu'il y a au-dessus, mais d'autres choses. On pourrait mettre des gros piliers. On pourrait imaginer de construire des piliers ou des colonnes en briques, par exemple. Là, ce sont des petites colonnes en marbre. On va d'ailleurs les voir dans un instant. Avant de les voir, regardons, penchons-nous sur les deux cercles, là. Hein. D'accord ? Les voilà, les deux cercles en question.
Ah, des baptistères.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Des baptistères ?
Non, c'est pas des baptistères.
Eh ben non.
Un ancien minaret.
Non, non.
Les anciens minarets tronqués. Mmh. Non plus.
Église.
Église. Eh ben non. C'est vrai que ça ressemble aux églises de l'extrême-est de la Turquie, hein, c'est vrai. Arménienne en particulier. Mais non. Des tombes. Ce sont des tombes. Vous savez comment on les appelle en turc ? Des tourbés. Hein. Ce sont des tourbés. Là, par exemple, dans cette tombe-là, ou celle-là, mais je crois que c'est celle-là, vous avez plusieurs tombeaux de certains des sultans seldjoukides de Rome. Par parenthèse, vous retrouvez nos mosaïques de marbre, etc. Enfin, ce qu'on a déjà vu. Hein. On est vraiment toujours à la même période. Donc ça, ce sont de tourbés, de tombeaux, qui sont à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée. Et voilà la salle de prière. Colonne, 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 colonne. Pourquoi tant de colonnes ? Pardon, allez-y. Oui, ça permet d'organiser l'espace, mais on peut le faire en construisant des colonnes en briques ou...
Est-ce que c'est pas tout simplement des colonnes de récupération ?
Eh ben voilà, c'est des colonnes de récupération. Ça vous rappelle quoi ? Des récupérations de quoi ?
Romaines,
antiques. Hein. Parce que, encore une fois, hein, les Seldjoukides se fixent sur cet héritage gréco-romain. Il hein. Y avait une ville antique à la place de Konya, hein, qui s'appelait Iconium. Hein. Eh bien, on a réutilisé des quantités d'éléments de l'Antiquité, soit pour refaire des bâtiments, c'est le cas de la mosquée d'Al-Aïdin, mais soit également pour s'en inspirer, pour faire les anges ou harpies qu'on a vu tout à l'heure.
Il n'y a pas deux chapiteaux pareils, d'ailleurs.
Non, tous les chapiteaux sont différents. Il y a vraiment une volonté de diversité, mais qui est due aux colonnes qu'on a remployées et aux chapiteaux qu'on a remployés.
Beaucoup de Cordoue, c'est de la même chose.
C'est le même genre de phénomène.
Cordoue, c'est magnifique. Elles sont plus jolies que
là. Alors là, qu'est-ce que c'est ?
Ah ben voilà,
ça c'est le mirabe.
Alors voilà, là on est, qu'on soit bien d'accord. Hein.
Et le mirabe qui est là.
Voilà.
On est là, au milieu de la salle de prière, on est d'accord. Là vous disiez qu'il y avait une coupole, effectivement, voilà toute la salle de prière. Au milieu il y a une coupole, hein. Et là, l'espèce de demi-cercle que vous voyez là, c'est ce que nous voyons sur la photo ici, hein, et qui est donc le
mirabe.
Hein. Le mirabe c'est quoi ?
Vers la Mecque.
Voilà. Tourner vers la Mecque. Parce que là, c'est tourner vers quoi ?
Vers le sud.
Vers le sud. Vers le sud. Hein. Là, c'est le miracle et tourner vers le sud. C'est l'équivalent de notre cœur à nous, si vous voulez. Hein, voilà. C'est tourner vers la Mecque. Hein. Voilà. Ça s'appelle donc le mirab. Et donc, à côté du mirab, vous avez
la
chair apprêchée, qui est le mimbar, hein, cet escalier, qui est le mimbar, hein, qui est la chair qui sert au prône. Hein. Voilà. Donc voilà le mirab, voilà le mimbar.
Hein.
Ces deux éléments se trouvent le long du mur où se trouve toujours dans une mosquée le mirab, le mimbar, qu'on appelle le mur de Qibla, hein, qui est donc le mur qui reçoit le mirab et le mimbar. Par parenthèse, le minbar de la mosquée d'Al-Aïdin à Konya est extraordinaire. Il date du XIIe siècle. Imaginez-vous, c'est un objet inouï. Hein. Le voilà en bois sculpté. Hein. 1155, on le sait précisément parce qu'il est, daté. Hein. Donc c'est absolument un objet inouï, hein, rarissime, et qui est fait d'une manière curieuse. Regardez un détail de ce minbar.
Il y a des étoiles.
Des étoiles. C'est fait comment, ça ? C'est sculpté, en bois sculpté, taillé. Mais il y a une technique particulière. Qu'est-ce que c'est que cette technique particulière ?
C'est évidé par endroit ?
C'est géométrique.
Pardon ?
C'est évidé ?
Oui, par endroit, oui, effectivement. Par exemple, là, c'est largement évidé, vous voyez, effectivement. Cette technique, c'est quoi comme technique ?
C'est
Je peux vous montrer un autre détail. C'est très beau, hein.
Ouais.
Et ça date du XIIe siècle, imaginez-vous.
Alors, c'est monobloc ou si c'est au contraire avec des reconstructions.
Non, je pense que c'est un monobloc.
Moi, je pense que c'est
monobloc. Monobloc ?
Non.
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 Ah bon. Eh bien, non. Ce que vous avez là est un puzzle de tous ces petits éléments-là.
C'est rapporté.
Ce que vous avez là n'est pas du tout un panneau sculpté, chaque dans la masse. Hein. Chaque élément est sculpté à part et par un système de rainures s'emboîte dans le voisin. C'est donc inouï. Ça s'appelle du Kundekari. C'est une technique vraiment complexe, hein, mais extrêmement à la mode dans le monde musulman, qui permet aussi, d'ailleurs, en théorie, parce qu'on prend, que le bois ne se fissure pas, au moins du moins. Hein, voilà. Donc le Kundekari, c'est cette technique. On connaît même le nom de celui qui l'a réalisé. Hein.
Il faut un calcul terrible pour
faire ça. C'est extrêmement complexe. Hein. C'est une mosaïque d'éléments de bois. C'est extraordinaire.
Et indémontable, peut-être.
Et a priori indémontable. Alors, il y en a quand même qui sont démontés. Vous verrez quelquefois dans certains musées du monde entier des morceaux de mimbar comme ça qui viennent de. Vous savez, en Occident, on a beaucoup dépecé les retables qu'on a coupés en morceaux, les retables italiens, etc. Dans le monde musulman, c'est plutôt les mimbar qu'on a beaucoup dépecés. Alors, vous verrez à New York, à Paris, à Pékin, et je sais pas où, des morceaux de certains mimbar qui ont été dépecés comme ça. Mais même un petit élément comme ça est formidable. Hein. Voilà. Alors, évidemment, la totalité est encore plus étonnante. Par parenthèse, voilà ici deux autres éléments d'ébénisterie datant de la même époque. Hein. Ça, d'ailleurs, c'est une des portes du mimbar que je viens de vous montrer. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est une autre porte qui vient d'ailleurs. Qu'est-ce que vous remarquez, d'ailleurs, en comparant ces deux portes-là ? Celle qui est un des volets, une des portes du mimbar qu'on vient de voir, mais qui est conservée à Istanbul. Et ça, cette porte, qui est une porte d'une mosquée à Berchehir, mais qui date de l'époque Seljoukide.
Celle-là est encastrée, ça c'est sûr.
Oui, celle-là est faite donc en Kundekari, hein, avec cette technique de puzzle, on va dire. Hein.
Mais l'autre, non.
Parce exactement, que l'autre, non.
C'est en relief.
C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est fait avec les techniques du Kundekari, ça, non. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est que cette porte-là, faite dans une autre technique, voilà, donne l'impression de l'autre. C'est-à-dire qu'on imite dans les portes ou les volets normaux la technique du Kundekari, qui est la technique précieuse, etc., ici réalisée par cet ébéniste du XIIe siècle. Hein. Donc, évidemment, le nom Kundekari imite le Kundekari. Dans les mosquées, on trouve d'ailleurs volontiers ce genre de choses. C'est quoi, ça ?
Les prières.
Voilà, c'est pour poser le camp, c'est un porte-camp, ça s'appelle un rahlé, hein. Le voilà. Ça, c'est un rahlé extraordinaire qui date du XIIIe siècle, qui appartient à un grand dignitaire. Je vous en montre là le détail, parce que c'est un objet qui n'a guère d'équivalent. Hein. Il est sculpté au voyage extérieur et peint à l'intérieur. Une sorte de peinture laquée et dorée, absolument remarquable. Mais je passe vite. Par parenthèse, je vous montre ici un Coran et un Mesnevi, enfin ce qu'on appelle le Mesnevi. Le Mesnevi est un ouvrage qui a été écrit par cet homme qui s'appelle Jalal el-Din Rumi, qu'on appelle souvent Rumi tout seul, ou bien surtout Mevlana. Hein. Mevlana, vous le connaissez sans doute parce que c'est lui qui a inventé Kamadekwa. Pardon ? Les derviches tourneurs. Hein. Les derviches tourneurs, c'est Mevlana. Hein. Mevlana est en fait un soufi, c'est-à-dire un mystique. Vous savez qu'il y a dans le monde musulman des mystiques, les soufis, qui sont des personnages très remarquables d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous donne à voir du monde musulman actuel. Hein. Les soufis sont des gens d'une haute culture, etc. Et Jalal al-Din Rumi, qui s'était retiré à Konya, a écrit les Mesnevi, qui sont une sorte de... C'est une sorte de grand poème, si vous voulez, mystique, autour du... C'est superbe, autour du Coran. Hein. Et là, vous voyez un Coran qui date du XIIIe siècle, et là, datant du siècle suivant, cette œuvre de Jalal al-Din Rumi. On vient à une seconde à la Saipata Chamili. Vous vous rappelez, on y est allé tout à l'heure. Hein. Je voulais vous montrer ici un détail du minaret. On en a parlé, mais je voulais vous montrer un détail. et toujours pour en finir avec nos questions de mosquée, hein, avant d'aller voir les médrassas d'un peu plus près, là, je vous montre à nouveau le mihrab de cette mosquée-là. Il est fait en quoi ?
Céramique.
En céramique. Hein. Et ce mihrab que vous voyez là, fait en céramique, couvert de céramique, la couverture de céramique est faite de quelle manière ? Quelle serait la technique employée ? On le voit peut-être mieux là. Pardon ? Eh bien, donc, ce sont des sortes de carreaux, mais techniquement, est-ce que vous pourriez préciser ?
C'est émaillé.
C'est émaillé, c'est de la terre cuite glacurée, effectivement, émaillée. Mais comment ? Ben, regardez, par exemple, les moukarnas, hein, nos stalactites, toujours la même chose que tout à l'heure. Hein, hein, c'est la même idée. Hein. Ces moukarnas-là, c'est fait comment, ça ? Vous prenez un gros bloc comme ça, puis vous peignez en noir, en bleu, en blanc.
Ah non.
Non.
C'est encastré.
Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, chaque élément est une pièce différente.
Voilà.
C'est-à-dire que l'étoile est une pièce différente, mais tous les petits losanges que vous voyez là sont tout le temps losanges différents. Ça, c'est une pièce. Ça, c'en est une autre. Ça aussi, autrement dit, ce sont des carreaux. Pardon ?
Comme une mosaïque.
C'est une mosaïque faite de morceaux de briques émaillées.
Mais géométrisées.
Et géométrisées. C'est-à-dire qu'on coupait des briques plus importantes, émaillées, pour en faire des petits morceaux, et ça donnait ça. Là, je vous ai mis ça, simplement parce que je trouve que ça montre bien ce qu'il en est. C'est un morceau d'un mihrab aujourd'hui disparu. Donc vous voyez cette mosaïque, et vous voyez les empreintes laissées. Ça, c'est autant de petits morceaux qui étaient... des uns côté des autres. Et puisque ces morceaux sont plats sur le dessus, mais biaisés à l'arrière pour bien rentrer dans le béton, dans le ciment, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand ça s'en va, il reste plus que le V des deux biais. Vous comprenez, hein, voilà. Et ça, ce que vous voyez là, qui est très agrandi, montre la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez un rinceau de loin, pas de problème, mais chaque élément est donc un petit élément différent. Hein. Donc ce sont des mosaïques de... morceaux de carreaux émaillés, si vous voulez. C'est un travail inouï.
Mais est-ce que ce sont des mosaïques qui sont faites directement sur le mur ou on fabrique des carreaux en mosaïque qu'on colle en...
Il y a les deux.
En gros éléments.
Alors, il y a les deux. Il y a effectivement, je pense notamment à deux grandes rosaces de la mosquée de Beïcheïr qui sont des espèces de grosses rosaces qui ont visiblement été faites et ensuite qu'on a placées sur le mur. En fait, visiblement, les deux existent. Dans certains cas, c'est guère possible. Je pense notamment aux coupoles. Vous allez voir des coupoles entièrement faites comme ça. Et là, on ne peut pas trop, quoi. Mais ce que vous dites existe aussi. Et je pense que pour les moukarnas, vous savez, ces stalactites des mihrabs, par exemple, c'est la technique que vous dites aussi. Hein. Qui fait quelquefois, on retrouve des moukarnas complets. Ou complètes. Maintenant qu'on a mieux en tête peut-être ce que c'est qu'une mosquée, regardons d'un peu plus près ce que c'est qu'une madrasa. Hein. Alors, vous reconnaissez la madrasa Karataï que l'on a vue tout à l'heure. Voilà l'entrée. On a déjà parlé de ces mosaïques. Je n'y reviens pas. On en a déjà parlé. Voilà le plan de cette madrasa. De quoi se compose-t-il ?
Il y a plusieurs salles.
Voilà, il y a une sorte de cour intérieure. Est-ce que c'est avec des pièces tout autour ? Est-ce que c'est vraiment une cour ? Pardon ? Voilà, c'est effectivement une sorte de cour, sauf qu'elle est couverte d'une coupole. Et qu'est-ce qu'il y a au centre de cette cour, qui n'est donc pas tout à fait une cour, mais qui est une salle centrale ? Il y a un bassin, il y a de l'eau. Hein. Parce qu'au milieu de la coupole, il y a quoi ?
Un impluvium ?
Voilà, une sorte d'impluvium, une sorte d'oculus, un trou, hein, qui d'ailleurs permet de voir le ciel et d'alimenter l'eau du bassin. Alors, il y a effectivement des salles tout autour. Est-ce que toutes ces salles sont pareilles ? Est-ce qu'il y a...
Toutes différentes.
Toutes différentes.
Des plus petites.
Il y en a peut-être une d'un peu particulière, enfin, il me semble. Voilà, une grande. Là, il y a une très grande salle. Et cette grande salle, elle a quelle autre particularité ? On le voit mal sur le plan, mais on peut le deviner. Pardon ?
Elle donne sur...
Alors oui, il y a une demi-coupole, c'est-à-dire que ça sont deux coupoles. Ça, c'est parce que c'est voûté en berceau, si vous voulez. Un berceau brisé, mais un berceau. Voilà.
Ah oui.
Hein ?
C'est l'entrée ?
Alors, l'entrée, c'est là. Alors, c'est pas une mosquée. C'est pas une mosquée qui serait dans la madrasa. Hein ?
C'est un lieu de prière ?
C'est pas un lieu de prière. Pas spécialement, en tout cas.
Un lieu d'étude ?
C'est plutôt un lieu d'étude, de toute façon, c'est une madrasa. Donc une madrasa, c'est un lieu d'étude. Mais cette salle-là, elle s'organise comment par rapport à la cour, à votre avis? C'est un peu perceptible sur le plan, quand même.
Il y a un trait fin.
Oui, il y a un trait fin. Alors, c'est pas un gros trait. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Voilà, c'est ouvert. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de mur. Hein. Là, vous n'avez pas de mur. Mais pourquoi vous avez un trait? C'est-à-dire que vous auriez un mur, ce serait comme ça. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la salle qui est là, là, vous avez cette grande salle sous coupole avec un bassin central. Et là, vous avez comme une sorte d'estrade, si vous voulez, cette grande salle. Hein. Comme s'il y avait là une sorte de scène de théâtre, si vous voulez. D'accord, hein, qui est largement ouverte sur la salle centrale. Vous savez comment est-ce qu'on appelle cette salle?
Un diwan.
Voilà, exactement, un diwan. Diwan, diwan, on peut dire les deux. Hein. Voilà, vous reconnaissez ça? Voilà la salle centrale, avec sa coupole et son oculus au-dessus, qui aujourd'hui est bouché, mais qui n'a pas forcément toujours été. Le bassin central, hein, et voilà l'iwan. Hein. Vous avez là cette espèce de grande salle, hein, avec berceau brisé, qui est une sorte de scène de théâtre, si j'ose dire. Hein.
Il faut danser, il fallait de la place. Pour...
Alors oui. Là, c'est pas un lieu pour derviches. Hein. Le Tekken Mevlana, on ira dans un instant. Mais c'est un lieu d'école. Mmh. Mais le maître peut se mettre dans l'iwan avec ses élèves. Hein. Une madrasa a toujours cette espèce de salle, l'iwan, ou le diwan, encore une fois, le mot divan d'ailleurs semble venir de ce mot-là, hein, qui est là et qui surplombe, si je veux dire, un peu le reste de la salle, hein, le reste de l'espace. Et ça, vous avez vu que c'était la même technique. Hein. Cette immense voûte que vous avez là est entièrement faite avec la technique des carreaux de faïence qu'on a vu tout à l'heure. Voilà un exemple, un détail. C'est inouï quand même. Et ça. Eh bien oui, c'est toujours la madrasa, une autre madrasa. Vous savez, celle qui est à côté d'une mosquée. Alors là, je vous montre simplement deux détails. Ce que vous voyez à droite, c'est quoi? Voilà, alors ceux du minaret, effectivement, qui est donc fait de quelle manière?
En briques. Oui.
Voilà, en briques avec des éléments de briques émaillées entre. Hein. Vous voyez qu'il y a des briques non émaillées et des briques émaillées. Ça, c'est une chose qui est aussi très à la mode, c'est le joukid. Hein. On fait alterner l'un et l'autre. Hein. Je vous montre aussi un petit détail de la porte d'entrée, parce qu'elle est extraordinaire. Hein. Très curieuse. Là, c'est uniquement de la pierre. Bon, on y retrouve ce que vous avez déjà identifié, hein, l'espèce de bossage, enfin de rosette qu'il y a là. Hein. Ça, c'est une des tendances de l'art seldjoukide qui se rappelle le baroque seldjoukide. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très chargé. Hein. Voilà. Je vais vous montrer une autre vue de ce décor, et c'est vraiment hein, c'est extraordinaire quand même. Hein.
Voilà. C'est des versets qui sont
écrits. Oui, des souverains du Coran. Donc ça, c'est une tendance de l'art seldjoukide qui va vers une sorte de surcharge, qu'on appelle encore une fois le baroque seldjoukide. Alors là, voilà le plan de cette madrasa Karatay. Alors qu'est-ce que vous y voyez là aussi? Voilà, à l'entrée, là, c'est le bassin central. Exactement. Alors là, vous avez notre petite mosquée avec son petit minaret juste à côté. Et la mosquée est à côté. Voilà. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Avec les salles tout autour, on a toujours le même genre d'organisation dans les madrasas. Hein. Et voilà ici l'intérieur. Alors, la voûte est faite comment?
Elle est éclairée.
Voilà, c'est la même chose que le minaret. Vous vous rappelez le minaret? Il fait alterner des briques émaillées et des briques pas émaillées. C'est la même chose que vous avez là.
L'éclairage vient du haut.
Éclairage vient du haut, puisqu'il
y a... C'est un décor qui est plaqué, quand même.
Oui, c'est un décor plaqué, oui.
Alors, c'est en pierre par-dessous ou...
Non, c'est de la brique aussi.
De la brique aussi.
Ouais. Je vous montre la dernière madrasa, parce qu'elle est un peu différente. Voilà l'entrée de la madrasa Sirchali, et voilà l'intérieur. Vous vous rappelez? Quelle est la différence, là? Alors... C'est pareil, sauf que ça, c'est l'ouvert. Hein. Voilà. Là, c'est la même chose, sauf que la salle centrale, elle doit être une grande salle voûtée, c'est là une cour. Autrement dit, le bassin qui est au milieu de la cour, il sert à quoi? Il peut servir aux ablutions.
Mais à rafraîchir.
Pardon? À rafraîchir, à recueillir de l'eau. C'est aussi un lieu d'étude, il peut servir à quoi? Eh bien, regarder les étoiles.
Ah, oui.
Très poétique. Pour considérer les étoiles, vous avez aussi la possibilité de le faire dans le bassin, qui réfléchit le ciel.
Ah.
Et on ne se dort pas le coup.
Enfin, je voulais qu'on regarde cette affaire de caravansérail. Hein. Donc, ça, vous disiez que c'était donc une vue d'un caravansérail. Mais c'est quoi l'intérieur du caravansérail? Regardons peut-être un plan, là aussi. Quand on voit un plan, moi, c'est pratique. Après, on comprend tout. Hein. Voilà le plan du caravansérail en question. Qu'est-ce qu'on y voit?
Des grandes salles.
On y voit une grande salle.
Des petites pièces.
Des petites pièces. Ouais.
Il y avait des magasins aussi dans le caravansérail.
Ouais. L'entrée est où? Là. Donc on entre par là. Ça c'est quoi?
La cour.
Au milieu de la cour, qu'est-ce qu'il y a?
Ah mais il faut que les animaux, il faut que les animaux boivent.
Alors c'est vrai qu'il faut que les animaux boivent. Là je vous dirais, je sais pas où il buvait entre parenthèses. Pour l'avoir, je ne sais pas. Mais voilà le centre de la cour, c'est ça. Alors c'est quoi?
C'est une hôtellerie en fait.
Le caravansérail est un genre d'hôtellerie. Non. Oh, c'était peut-être plutôt par là, vous voyez. Ah non, c'est mieux que ça.
Mais c'est pas très grand.
C'est la mosquée.
Ah, mais elle est toute petite.
Ah, ben c'est une petite mosquée. À caravansérail, c'est un lieu... Vous savez, c'est ce qu'il y avait le long des routes. À l'époque, c'est Seljoukide. C'est pour ça que ça a bien marché, l'Empire Seljoukide. Il y a un boom économique terrible. Hein. On est effectivement au bout de la route de la soie, hein, du côté occidental. Donc, économiquement parlant, ça marche très, très bien. Donc, il y a des tas de caravanes. Simplement, quand on est dans une caravane et qu'on travaille dans un caravansérail, il faut avoir tout sous la main. Hein. Alors, il y a effectivement des lieux où on peut mettre des marchandises, des animaux, et puis se mettre soi-même, hein, de manière un peu, j'allais dire, sinon précaire, du moins un peu rapide. Hein. Dans la grande salle, vous avez un peu bêtes et gens. Hein. Alors vous pouvez mettre là ou là les bêtes aussi, hein, mais la grande salle elle-même, d'ailleurs on va y aller dans la grande salle, hein, on va rentrer dans le caravansérail. Hein. Voilà l'entrée. Et vous reconnaissez d'ailleurs notre porte avec toujours la même chose. Hein. Vraiment, Seljoukide de ces Seljoukides. Hein. Maintenant, vous ne passerez plus jamais à côté de quelque chose de Seljoukide sans le voir. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Vous voyez qu'à l'extérieur, c'est vraiment une sorte de petit rempart. Hein. Voilà notre cour centrale avec la petite mosquée. Voilà une vue des galeries tout autour de la cour. Hein. Vous voyez qu'on peut quand même stocker pas mal de marchandises et d'animaux. Hein. C'est fait pour. Voilà l'entrée de la grande salle, encore moucarnasse, etc., mosaïque de marbre, enfin, toujours le même vocabulaire, il n'y a pas à se tromper. Et voilà la grande salle, avec coupole. C'est pas mal, hein. Et là-dedans, ben, on sert tout le monde. Les caravansérails étaient donc des sortes d'hôtelleries pour les caravanes. Petit détail pour vous dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'il y a également à Konya, ce qu'on appelle le teke, de Jalal el-Din Rumi. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de ce soufi-là, hein, qu'on appelle Mevlana, l'inventeur des derviches. Je vous le montre là, un peu à la fin, tout simplement parce que ce bâtiment-là a été construit largement après l'époque seljoukide. Hein. Mais Mevlana était tellement célèbre, il fait toujours l'objet d'un pèlerinage. Ça vaut être un musée aujourd'hui depuis Atatürk, hein, c'est quand même un lieu de pèlerinage. Hein. Et donc, si vous voulez, ce lieu de pèlerinage a été très important, ce qui fait que, par exemple, le tourbe que vous voyez au milieu en céramique bleue date du XIVe siècle. Hein. C'est donc postérieur à l'époque des Seljoukides.
Il n'y a que là-bas qu'on le voit.
Pardon ?
Il n'y a que là-bas qu'on le voit aussi beau.
Oui. Alors, je voudrais qu'on aborde une deuxième partie. On a encore le temps, oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le gros problème avec les Seljoukides, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce que j'allais dire, ce que j'allais appeler la vie quotidienne. Les maisons, c'est du peuple, hein, il n'en reste rien. Parce qu'après tout, le palais du sultan était en terre. On sait bien que les maisons dans Konya n'étaient pas en marbre ciselé. Hein. Bon, c'était pareil. Donc il reste vraiment rien. Et les fouilles archéologiques n'ont pour l'instant pas tellement travaillé ce domaine-là. Donc on va dire, on ne peut pas dire grand-chose sur la vie quotidienne, hein, d'une ville comme Konya au XIIe-XIIIe siècle. Par contre, on veut dire davantage de choses au niveau de la cour et du sultan, et j'aimerais un peu, dans cette deuxième partie qui terminera cette dernière séance, qu'on s'interroge un peu autour de ça, autour de ce que c'est que le sultan, ce que c'est que la cour, et des éléments qui caractérisent le sultan et la cour. On a vu un morceau du palais du sultan tout à l'heure. Hein. Eh bien, essayons un peu d'imaginer ce qu'était la vie du sultan et comment fonctionnait, par exemple, la symbolique autour de lui. Qu'est-ce que vous voyez là ?
Un lion.
Un lion. Il y a énormément de lions à Konya. Pourquoi ?
La puissance.
Voilà. Hein. C'est un symbole, c'est un signe de force, de puissance. Le lion en turc, ça s'appelle Arslan. Et beaucoup de sultans seljoukides s'appelaient, je ne sais pas quoi, Arslan. Le mot même de lion est à l'intérieur du nom de certains sultans. Parce que c'est effectivement la force, la puissance, pas différente chez nous. Hein. C'est que pour nous, depuis le Moyen-Âge au moins, le lion, c'est le roi des animaux. Dans le roman de Renard, hein, le lion, il s'appelle Noble. C'est le roi. Hein. Et bien, c'est pareil dans ces territoires.
Oh, c'est marrant.
Je voulais passer en vitesse tous les petits éléments que je voulais vous montrer. On va revenir dessus après. Hein. Voilà, on trouve notre lion, hein, notre Arslan, et ça.
Ça pourrait être un scribe.
Un scribe ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce personnage ?
Le croisement des jambes.
Il est assis d'une manière spéciale. Hein. C'est quoi cette manière, d'ailleurs, de s'asseoir ?
C'est pour ça que je parlais de scribe.
C'est pas une position de prière, ça ?
Pas spécialement.
C'est pour ça que je parlais de scribe, parce que je me disais qu'il était assis pour écrire. Comme ça.
En fait, c'est une manière très orientale. En Orient, on s'assied comme ça. Hein. Mais ce personnage, à votre avis, c'est qui ? Pardon ?
Le sultan.
Peut-être le sultan. En tout cas, visiblement, un prince. Vous avez là, effectivement, la représentation d'un prince.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous auriez à dire sur, stylistiquement, cette œuvre ?
Pourquoi cette boule dans la main gauche ?
Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un fruit, hein, un objet qui lui donne une contenance, si vous voulez, mais a priori pas de sens au-delà de ça. Oui, stylistiquement, qu'est-ce que vous diriez ? Ben voilà, on est toujours dans le même genre de relief, un relief, alors qui est un bas-relief bien creusé, mais bien plat. Hein. C'est toujours le même type de réalisation. Et on l'a vu tout à l'heure, les détails sont des détails qui sont plus creusés, qui ne donnent pas un volume à ce relief. Hein. On est dans du relief plat et schématisé. Et ça ?
Un aigle
bicéphale. C'est quoi ça ? Ça correspond à quoi ?
À deux royaumes.
Deux royaumes ?
C'était repris après.
Ah oui, l'aigle bicéphale.
Bah oui,
on en a vu d'autres ailleurs.
Oui,
hein.
On en a vu d'autres, oui.
Malheureusement. Oui, parfois. Mais là, ça veut dire quoi, l'aigle bicéphale, à votre avis ?
Le royaume d'Occident ?
Le pouvoir d'Orient et d'Occident qu'il avait.
Oui, plus simplement, c'est l'emblème des Seljoukides.
Oui.
L'emblème des Seljoukides, c'est ça. Alors, derrière, il faut peut-être y voir tout ce que vous avez dit, hein, mais il se trouve que les Seljoukides ont comme emblème l'aigle bicéphale que d'autres prendront plus tard aussi.
Hein.
Deux guerriers, absolument. Là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce relief ?
Toujours
relief plat, avec ces éléments gravés, pas du tout en volume. Décidément, c'est une constante. Et qu'est-ce que ces deux guerriers présents là peuvent peut-être vous signaler de la société de ce temps-là ? Voilà, c'est une société très militaire. Hein. Ce qui a fait aussi que l'Empire Seljoukide a tenu, c'est aussi parce que c'est un empire très militarisé, où vraiment l'armée a une place de grande importance. Donc le militaire, il est très présent. Ah bon, vous ne pouvez pas traduire.
Ça, c'est le terrain.
Mais là, à la fin, on va savoir lire l'arabe. La semaine dernière, on a parlé chinois, cette fois, on ne parle rien.
C'est des paroles du Coran.
Alors, ce n'est pas une parole du Coran. Avant de voir ce que ça dit, mais là, moi-même, d'ailleurs, j'aurais un peu de mal. Enfin, je sais ce que ça dit, mais parce qu'on me l'a dit. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cet objet qui est là ? Qu'est-ce que ça dit ? Au-delà de ce qui est illisible pour vous et moi.
C'est
Ça fait une entrée d'une porte.
Ça ressemble un peu à une entrée de porte, mais en fait, c'est une inscription qui était à l'intérieur d'une sorte de cartouche, si vous voulez. Mais qui ressemble effectivement à une sorte de niche, ou de porte, ou de baie. Ouais. Mais ça dit quoi?
Il manque la partie du dessous.
Il manque la partie du dessous. Mais rappelez-vous de ce qu'on a pu évoquer la semaine dernière, par exemple. Non. Non, je vais vous dire ce que c'est simplement le nom du sultan. Oui. Ah, bon. Al-Aydin Kaykobad Ier.
Eh bien, disons. Voilà.
Donc, on ne sait pas ce que ça dit parce que le bas manque.
Il y avait une communication.
Oui. Mais, je ne sais pas, mettez-vous dans nos villes à nous au XIIe siècle. Est-ce que vous voyez l'équivalent?
Non.
Pourquoi? Rappelez-vous, la semaine dernière, en Chine, on en a vu des choses comme ça. Sauf que ça vient de Chine. Oh, bon, il y a des gens qui savent lire, d'autres pas. C'est comme chez nous.
Chose à faire.
Non. Non, pas forcément. Enfin, voyez, on ne sait pas ce que disent les inscriptions en bas. Non, ce que je voulais simplement souligner, c'est l'importance de la calligraphie, tout simplement.
Ah oui.
Tout simplement. C'est-à-dire que nous, dans nos villes médiévales, 12e siècle, 13e siècle, la date de cette inscription, il y a par endroit des formules, etc. Mais en Orient, que ce soit en Extrême-Orient comme au Proche-Orient, la calligraphie a une place fondamentale. C'est-à-dire la calligraphie, ce n'est pas trois bouts de lettres qui servent à dire quelque chose, c'est en soi des œuvres. Alors, rappelez-vous de ce qu'on a vu pour la Chine la semaine dernière. Hein. La calligraphie, c'est avant la peinture. Aujourd'hui, pour nous, c'est très complexe à imaginer, mais la calligraphie, c'est pas simplement quelque chose qui dit que c'est avant la peinture. La calligraphie, c'est mieux, c'est au-dessus de la peinture. Hein. Mmh. Et ben, c'est pareil au Proche-Orient. C'est-à-dire que la calligraphie, c'est très très important. Une inscription, elle dit des choses, elle dit ce qu'elle a à lire, d'accord. Mais au-delà de ça, la forme de l'inscription, la manière de les sculpter, le soin, ça, c'est très très important. La calligraphie, c'est vraiment un art qui fait que une ville comme Konya est truffée de textes épigraphiques de gens. Mmh. Et là...
Encore un lion.
Un lion avec...
Oui, voilà, on trouve le lion, hein, toujours en effet la même idée. Alors, là, l'inscription, c'est une date. Hein. C'est la fin d'une date, d'ailleurs. Et en dessous, il y a un lion, toujours le lion, qui est toujours cette représentation du sultan, etc. Ça... Oui, effectivement, on voit un personnage assis qui tient un faucon. Et puis devant...
Un petit personnage.
Un tout petit. Ça peut être quoi?
Un enfant.
Voilà, un inférieur à un enfant. En fait, on ne sait pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que l'on a là, c'est effectivement un dignitaire avec un assistant. Alors, est-ce que cet assistant, c'est un enfant qui est plus petit? Ou est-ce que parce que c'est un assistant moins important que le dignitaire, il est représenté plus petit? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une sorte de hiérarchie.
Mais donc
le faucon, il suggère quoi?
La chasse.
Et puisqu'il suggère la chasse et que c'est un faucon, il suggère quoi derrière ça? Voilà, la puissance. Hein. Un faucon, c'est hors de prix. Hein. Un faucon, c'est pas un petit oiseau. Acheter un faucon pour la chasse, tout le monde ne le fait pas. Il faut être un proche du sultan. Hein. Il faut être quelqu'un de très riche. Donc le faucon, dans ce relief, qui est d'ailleurs un relief plat, enfin, toujours pareil, hein. Toujours. Le faucon, c'est vraiment quelque chose qui dit la qualité de ce dignitaire.
Mais on pouvait donc représenter quand même la figure humaine dans ce milieu musulman.
Absolument. C'est-à-dire que très souvent, on dit l'art musulman ne représente pas la figure humaine, ça n'est pas vrai. L'art musulman ne représente pas la figure humaine dans le domaine du religieux. Donc là, on n'est pas dans le domaine du religieux, on est dans le domaine du profane, il n'y a donc pas de problème. Donc en fait, l'art musulman connaît tout à fait bien la représentation humaine ou animale.
Et dans les miniatures aussi.
Alors, je voulais, pour terminer, après tout, c'est bientôt Noël, les vacances, vous rêvez de partir ailleurs, et bien, voilà une destination toute trouvée. Car notre sultan Al-Aydin Kaykobad, hein, celui dont on vient de voir le nom sur cette inscription, il avait décidé de se faire construire près du lac de Beysheir. Vous vous rappelez, je vous ai montré ce lac tout à l'heure. Mm-hmm. Un petit palais, histoire de pouvoir passer... l'été, au moment où il fait assez chaud et où sur ce plateau près du lac c'était plus agréable, il s'est donc construire un palais, le palais de Kubadaban. Voilà une vue aérienne du palais de Koubadabad qui fait l'objet de fouilles archéologiques depuis à peu près un demi-siècle. Ce palais de Koubadabad, il est donc au bord du lac de Berchir. Il n'est pas très bien conservé. Hein. Il est fait quand même avec des pierres, mais les petites pierres, vous voyez que c'est un peu du tout venant. Donc ce qui reste, c'est quelques... c'est au mieux 2 mètres de haut. Enfin, c'est loin d'être dans un état de conservation extraordinaire. Enfin, on connaît relativement bien le palais de Koubadabad. Et surtout, on a trouvé énormément de décors dans ce palais de Koubadabad. Et pour terminer, je voulais vous montrer ces décors. Vous avez là un exemple d'une paroi couverte de carreaux de faïence. Je voulais que, pour terminer cette séance, on regarde quelques-uns de ces carreaux et qu'on essaie de voir ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils représentent. Là, par exemple, qu'est-ce que vous voyez ?
Un personnage assis.
Un personnage assis à l'oriental, comme notre prince de tout à l'heure. Hein. Ils sont tous assez comme ça, les princes, les dignitaires.
Hein. Oui, mais dans des végétaux.
Pardon ?
Avec des végétaux.
Oui.
La nature.
Effectivement. Hein. Là, vous avez remarqué qu'il tient des deux palmes. Hein. Absolument. Alors, ça... À vrai dire, on n'est pas très sûr de ce que c'est. Il s'agit peut-être de la représentation d'une planète. Un certain nombre de planètes sont parfois représentées de la sorte. En tout cas, c'est un personnage tenant des pattes. C'est quoi ça ? C'est un lion ?
Une harpie ?
Une harpie ? Une harpie ?
C'est une harpie ?
Non, la bonne mine.
Pardon ? C'est pas un griffon. Le griffon, c'est mi-aigle, mi-lion. C'est pas une sirène. Une sirène, c'est oiseau et corps de femme.
Ça, c'est un lion.
Alors là, c'est un lion, mais un lion qui a une drôle de tête.
Mais
c'est une tête humaine. C'est comment est-ce qu'on appelle un lion qui a une tête humaine ? Il y en a plein en Égypte. C'est un sphinx. Un sphinx, c'est les... Vous connaissez le grand sphinx, hein ? Eh bien, le sphinx, c'est un corps de lion et une tête humaine. Là, en plus, il est ailé. Le sphinx, c'est pareil, ça porte toujours bonheur. C'est plutôt favorable, un sphinx. Hein. Mais depuis l'Antiquité égyptienne, hein, c'est un animal spécial, mais plutôt favorable. L'aigle à deux têtes, qui évoque quoi ? Le sultan. D'ailleurs, au milieu, il y a marqué « sultan hein, ». Ce que vous voyez décrit, là, c'est « sultan ».
Trois figures humaines.
Trois figures humaines, ouais. Ça peut être quoi ? Les objets que je vous montre viennent à la fois du palais de Koubadabad et certains éléments viennent du palais de Konya. Vous savez, ce truc informe sous son, hein, sous son rapport d'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le cas, par exemple, de ce carreau-là. Ça peut représenter quoi ? Trois personnages, effectivement. On est dans le palais du sultan. Hein.
C'est l'épouse.
Alors,
sa famille.
Voilà, c'est plutôt en tout cas le sultan au centre, avec en tout cas deux, deux assistants, enfin un peu comme tout à l'heure. Honnêtement, on ne saurait pas dire de qui il s'agit, hein, mais vraisemblablement au milieu, le sultan. Le sultan n'apparaît jamais seul, il faut du monde. Hein. Deux oiseaux, oui, et au centre,
une palme.
Ce motif vous dit un peu quelque chose ?
Sert de dais pour les processions.
Ah, la chose centrale, oui. Vous voulez dire.
Oui.
Oui, enfin pas là en tout cas. Hein. Oui. Je vois ce que vous voulez dire, hein, mais là c'est vraiment une palme, pour ne pas dire un arbre d'ailleurs. Mm. Hein. Mm. Ben, en fait, ça c'est un motif qu'on trouve beaucoup dans le monde musulman, mais qu'on trouve beaucoup dans l'Antiquité au Proche-Orient, et qu'on va beaucoup trouver en Occident. Il suffit de regarder les églises romanes, sans les bourrées. C'est des oiseaux, pardon, d'un arbre central qu'on appelle l'arbre de vie. Et ça, c'est un motif qui vient... Alors là, on parlait d'Assyrie tout à l'heure, hein, vous avez ça à Nimroud, à Ninive, au premier millénaire avant notre ère. Hein, et on trouve ça dans l'art musulman, on trouve ça dans l'art occidental. Voilà un chaînon de la chaîne. Vous remarquez la technique, hein, hein, c'est un décor, c'est de la céramique, hein, il y a un décor peint bleu et noir sous glaçure. Voilà, encore un personnage assis à l'oriental. Mmh. Hein. C'est la même technique ?
Non.
C'est quoi ça ?
C'est pas comme
le précédent.
Et là, deux couleurs. La ouais.
Comment est-ce qu'on appelle cette couleur-là ?
C'est l'ocre.
C'est un ocre brillant.
Lustré.
C'est du lustre. c'est-à-dire une couleur un peu brillante, presque dorée. Hein. Et ce personnage est sans doute un dignitaire. La coiffe qu'il a est une coiffe qui correspond à des personnes de haut niveau, de haut rang. Ça. Ça représente quoi ?
Le sultan qui distribue.
On voit quelque chose à gauche. C'est un peu cassé, mais quand même.
À gauche ?
Ouais.
C'est une somme.
Un autre personnage ?
Oui, je pense
un cheval. Un cheval. C'est l'encolure d'un cheval. Tandis que ce que vous avez là, c'est un cavalier. Il y a un bras comme ça, pourquoi ?
Il flatte son cheval.
Il flatte son cheval ?
Non, il va le tirer.
Pourquoi est-ce qu'il a le bras comme ça en hauteur ? Il attend un faucon. Il attend un faucon. Vous n'avez pas un vague cavalier d'une vague steppe, je ne sais où. Hein. Vous êtes là dans le palais du sultan. C'est un personnage important, quelques dignitaires, sinon le sultan lui-même. Il a évidemment un faucon. Techniquement, ça vous rappelle ce qu'on a vu avant ? Ou ce qu'on a vu avant ? Quelle est la différence ?
Les deux.
C'est deux lustres ?
Non.
Non. C'est la technique peinte sous glaçure que je vous montrais tout à l'heure ?
Non.
Quelle est la différence ? Regardez, hein. C'est donc pas comme ça.
Non.
C'est pas comme ça.
Non.
Quelle est la différence entre ça et ça ?
Pardon ? Il doit y avoir une différence de cuisson.
Oui, absolument. Et de... qui se voit, pourquoi là ?
Des fissures.
Alors, oui, mais surtout, encore plus visible. Évidemment. Regardez.
C'est moins précis.
Et bien voilà. Là, vous aviez deux couleurs. Sur fond blanc, hein, du noir et du bleu. Là, vous avez du rouge, du vert, du jaune. Il y a même de la dorure. Ça, c'est une technique. Vous savez que dans la faïence en Europe, hein, il y a, pour faire vite, le grand feu, le petit feu. Le grand feu permet de faire quelques couleurs basiques. Avec le petit feu, qui est beaucoup plus compliqué, vous pouvez avoir des nuances de couleurs très nombreuses et plus de couleurs. Et bien, c'est pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle du petit feu, du afrang, c'est le nom turc, qui permet donc d'avoir des déclinaisons de couleurs très nombreuses. C'est du petit feu, alors que ce qu'on a vu là, c'est du, ce qu'on appellerait en Occident, du grand feu. Vous voyez, il y a des quantités de techniques nombreuses et diverses. Voilà, encore du grand feu, ça représente quoi, ça ? Facile, ouais. Une harpie, exactement. Revoler une harpie, comme celle de notre claveau tout à l'heure. Bon, pardon. Ça. Oui. Ce sont sans doute des femmes de la cour. Tiens, c'est quoi ça ?
Un peu plus
de bataille.
Oui, de bataille.
Là, il n'est pas plat.
Non. C'est en quoi ?
Marbre.
C'est pas en marbre.
Albâtre.
C'est pas en albâtre. Pardon ? Stuc, c'est du stuc. Et cette joukite travaille beaucoup le stuc. Ça représente quoi ?
Une scène de bataille.
Une scène de bataille ? Il y a déjà des mots. Alors, de chasse, c'est une chasse spéciale. On est en train de chasser quoi, là ?
Un
crocodile ? Un dragon. Et là, on chasse quoi ? Alors, là, c'est un animal mythique. Là, un peu moins. Là, c'est une sorte de lion. Mais dominer le lion, dominer le roi des animaux, c'est être encore plus fort. Dominer le Arslan. En fait, on a là deux cavaliers et des princes. Hein. Ils ont toujours cette coiffure princière hein, qui domine effectivement des animaux puissants. Et là...
Un oiseau
sur un... Un poisson. Un poisson à oreille. C'est encore un faucon. Sur quoi ?
Sur un animal chassé.
Un lièvre, oui. Oui. Vous voyez les deux oreilles, voilà la tête, les deux oreilles, voilà le corps, les quatre pattes. Hein ? C'est dans quelle technique ça ? Qui s'appelle comment ? Le lustre, c'est lustré. Hein ?
Un lion.
Un lion, c'est notre cher Arslan. Hein ça. Quelle technique ?
Plus de couleurs. Donc
voilà, la technique en couleurs, hein, le petit feu, la flamme de tout à l'heure. Hein, donc des carreaux, ça c'est une technique hyper complexe. Ces carreaux, vous voyez là, ils sont très grandis, mais chaque fragment fait 3-4 cm de haut. Hein. Et ça, du stuc, ça représente quoi ?
Un cavalier.
Avec qui ?
Un chien.
Un chien devant lui, effectivement. Et derrière ?
Il y a un ange.
En fait. Un ange. Vous vous rappelez de nos anges de tout à l'heure, de nos victoires de tout à l'heure? Eh bien, vous en avez une autre là. Hein, on a même l'impression qu'il tient, comme les victoires antiques, une couronne pour couronner ce cavalier, qui est certainement un prince. Toujours la glorification du prince. D'accord?
Ouh, un ours.
Un ours. On a beaucoup en anatomie.
Un éléphant.
Alors, c'est pas un éléphant à gauche. Non. La tête est là. Hein. C'est un dromadaire. Un âne. Et puis un canard en haut à droite. Hein. Vous voyez que dans l'art seldjoukide, hein, on représente des choses avec beaucoup de, comment dire, d'acuité et même de réalisme. Hein. C'est quoi ça comme matière? Stuc. Et ça représente quoi? Là, il y a un poisson, mais il y a autre chose.
Une corne d'abondance?
Non. Une corne d'abondance, puis un poisson, et puis...
Quelque chose qu'on a déjà vu à plusieurs reprises.
L'aigle à deux têtes.
L'aigle à deux têtes. La partie gauche manque. Vous avez là le corps de l'aigle, l'aile. Voilà une tête, et il y avait certainement l'autre tête et l'autre tête.
Ah, oui.
On sait parce qu'il y en a d'autres plus complets. Et j'ai choisi un morceau plus fragmentaire. Pour vous. Sans doute un dignitaire, voire même le sultan.
Une fleur.
Oui. C'est en quelle matière? Stuc, c'est du stuc. Ça vous rappelle quoi, ce genre de décor-là?
Ce qu'on a vu orchestré.
Voilà. Ça rappelle ce qu'on a vu aussi bien les, par exemple, le Kundekar, il vous rappelait, hein? Vous rappelez le mimbar de tout à l'heure? Ou bien même les décors en céramique des mosquées, par exemple, vous rappelez, hein? On a là le même type de vocabulaire, très géométrisé, avec une vague basse plus florale, hein? Mais très géométrisé. Et puis je crois que c'est les derniers.
C'est joli. Hein.
C'est beau, hein?
Ouais.
Je vous soigne avant Noël. Hein.
Mais est-ce que c'est le bleu?
Ah, ça c'est une tache d'une autre couleur qui a dû tomber avant la cuisson. Ou pendant la cuisson, d'ailleurs. Oui, oh oui, ou un, peut-être une chèvre, hein, tout simplement. Hein. Et puis à gauche, c'est plutôt une sorte de renard. Hein. Voilà. Alors évidemment, on aurait pu parler d'autre chose. Hein. Je vous dis ça, on va terminer là, avec des moins 20, mais on arrête dans une seconde. On aurait pu parler de ça, ça c'est quoi?
Un
tapis. Entre parenthèses, on a pas mal de tapis de l'époque seldjoukide, à votre avis, pourquoi? Des fragments. Hein. Celui-là date des 13-14e siècle. Vous ne verrez pas souvent des tapis du 13-14e siècle. Hein. Eh bien, à Konya, oui, en Turquie aussi, pourquoi? Où est-ce qu'on a pu les trouver?
Dans les mosquées.
Dans les mosquées. Au début du XXe siècle, un certain nombre de savants turcs sont amusés à aller dans les mosquées et à soulever les tapis. Parce que vous savez, dans une mosquée, quand on est un bon croyant, on offre des tapis. Hein. Mais on en offre, alors on les empile, puis au bout de quelques siècles, il y a des couches de tapis. Simplement, les tapis du dessous, ils sont en moins bon état que les tapis du dessus. Alors quand on enlève les tapis du dessus, on trouve les tapis du dessous, mais on dirait du Raymond Devos, hein. Mais on les trouve dans un état, quelquefois, pas très bon. Hein. Mais on les trouve quand même. Donc vous verrez, par exemple, à Istanbul, à Ankara, à Konya, des morceaux de tapis médiévaux, ça ne court pas les rues. Hein. En voilà un exemple. J'aurais pu vous parler de ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Seljoukid aussi. Hein.
Un chandelier.
Hein. Voilà, un chandelier en métal. On aurait pu en parler également de l'art du métal, hein, qui est important chez les Seljoukides. Par exemple, les Seljoukides, on trouve beaucoup de mortiers comme ça, ou de heurtoirs de porc, toujours avec des lions, hein, le lion décidément. Hein. Il est important. On aurait pu parler également d'autres types de céramiques plus courants, par exemple, ces céramiques-là qui sont des céramiques sans glaçure, comme vous le voyez, simplement moulées. Hein. Enfin bon, je voulais pour terminer vous montrer plutôt tous ces carreaux muraux qui sont tout à fait remarquables.
Y avait-il des bijoux?
Alors, moi je n'en connais pas. Je serais surpris qu'il n'y ait rien eu. Hein. Pour ma part, je ne connais pas de bijoux seldjoukides, en tout cas sûrs. Parce que le gros problème pour les seldjoukides, c'est aussi que souvent, on leur prête, entre guillemets, des choses dont on n'est pas sûr qu'elles soient vraiment seldjoukides. C'est le problème de ces cultures qui, quelquefois, sont à la fois bien connues, mais qui n'ont pas toujours été toujours étudiées dans le détail. Hein. Il reste beaucoup à faire là-dessus. Je vous parlais, par exemple, de la vie quotidienne chez l'époque seldjoukide. Pour l'instant, on n'en sait quasiment rien. Hein. Voilà, c'était la dernière séance. Vous avez bien compris qu'elle avait été le but, non pas de pouvoir, mais de débroussailler un peu ces cultures extérieures aux nôtres. Alors maintenant, j'espère que vous avez plein de rêves dans la tête. Bon Noël, bonne planète.